J'aime pas le côté industriel de la musique, c'est pas moi quoi, ça me correspondait pas. Donc j'étais très attiré par le fait de monter une petite structure. Donc on était quatre dans l'aventure et on est parti donc avec Virgin Suicide. Je me souviens très bien qu'on a écouté le mix de ce morceau. On était les quatre du label dans une voiture. On s'est dit waouh, ça va rester.
Ah, enfin, on sentait
qu'ils avaient fait un classique quoi. Vraiment, les valseuses, c'est la meilleure référence. Hein.
Ouais, je visualise parfaitement.
Tu vois?
Ouais, complètement.
Et ils avaient une sorte de sac plastique, un petit baluchon rempli de weed. C'était tout ce que j'ai connu après avec Sébastien a été résumé dans cette apparition. La cabine téléphonique, le son, au début, on l'entend faire son numéro de téléphone. Ça, Kavinsky me l'avait décrit. On arrive au mastering, le son n'y était pas. Je dis, attends, ton idée, là, ton concept, ce qui fait qu'on est dans un film, c'est parce qu'il y a ce son de cabine téléphonique. Donc là, j'appelle un pote, je lui dis, vas-y, sors-moi le meilleur son de cabine téléphonique. On met le mastering en pause, bam, on l'a placé comme ça à l'arrache à la dernière minute, et heureusement.
Et oui, dans cet épisode, on parle de Record Makers, superbe label français d'Az. C'est dans le tempo, et c'est l'épisode 80.
Let's go.
Bienvenue dans DLT.
Bonjour, bonjour.
Le podcast des passionnés de musique d'Az.
Oui.
On se retrouve
une semaine sur deux.
Ouais, un mercredi sur deux, ouais, c'est ça. Ouais.
Compagnie de gens hautement qualitatifs.
Absolument.
Et qualifiés.
Absolument. Comme Marc Tessier-Ducrot, par exemple.
Mais par exemple, mais vraiment au hasard.
Qui est notre invité du jour. Bonjour, Marc.
Bonjour, Marc.
Tu vas bien ?
Merci. Ouais, ça va très bien, merci.
C'est un plaisir de te recevoir dans cette émission. D'autant plus que, si je ne me trompe pas, tu l'écoutes parfois.
Ah oui, c'est vrai.
De plus en plus de gens nous écoutent.
Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir.
Franchement, je suis trop content.
Et tu sais quoi ? Je disais, on va parler de Record Makers, ouais. Puisque Marc est l'un des cofondateurs de ce label, de cette belle maison. Puisque à l'origine, tu cofondes ça, Marc, avec les deux membres du groupe R, qui sont JB Dunkel et Nicolas Godin, et puis leur manager de l'époque aussi, Stéphane Elfassi. Et puis, tout de suite, vous sortez la BO d'un film qui s'appelle Virgin Suicide. C'est d'ailleurs un peu la raison, si j'ai bien compris, pour laquelle vous montez ce label, cette structure. Toi, tu bosses à l'époque en tant que directeur artistique pour un label qui s'appelle Source. Et puis, derrière, vous allez vivre toute une aventure. Votre première signature, ça va être Sébastien Tellier.
Ça va.
Ouais, pas mal. Hein. Mmh. Il va y avoir aussi des aventures avec Arpanet, avec Kavinsky, avec Club des Losers. Je savais même pas, tu vois, pour Club des Losers que c'était sorti chez vous. Vive la vie. Il y a eu Dita Ventis, il y a eu Turzi, il y a eu Midnight Juggernaut, récemment Nitz qu'on a reçu dans cette émission.
Oui.
Bon, il y en a plein, on les citera dans l'émission. Et puis, on va parler de ton métier, de l'économie aussi, de la musique.
Nous intéresse.
Grave, ça. Grave. Ouais. Parce que c'est intéressant, tu sais, le métier d'un label, parce que vous êtes vraiment, j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, à la jonction entre l'artistique et aussi l'économique, le stratégique.
Oui, c'est forcé. Si tu gères pas l'économie, tu coules. Ouais. Donc, le but, c'est de durer. Hein.
Comment, quand on te demande ton métier dans la vie, tu dis quoi comme métier et en quoi il consiste, si tu vois, en quelques phrases
Alors, souvent, je dis que je suis producteur.
Ouais.
Avec la petite précision, parce que producteur, en fait, ça peut être compris de différentes manières. Ça peut être Quincy Jones ou Rick Rubin ou donc les gars qui sont au studio, qui font le son avec les chanteurs.
Les producers, quoi.
Producers. Ouais. Voilà, moi je suis producteur dans le sens où je produis des disques, c'est-à-dire que je parie sur des artistes et je fais en sorte qu'ils sortent de la musique présentée de la meilleure des manières avec le public le plus large possible. Quoi. Ouais.
Mais du coup, toi, t'es contrairement par exemple à un Quincy Jones, REP, t'es pas en studio à produire la musique. Tu donnes pas d'instructions, t'es pas.
Instruction, je me permettrai pas, mais je donne bien mon avis quand même.
Ouais.
Et j'aime bien aller en studio, j'adore ça,
c'est même la
partie B que je préfère.
Ouais, ok.
Ce que je propose, c'est que pour qu'on parle un peu plus en détail de ton métier, on va retracer un peu votre histoire avec Record Makers, et puis commencer évidemment au début. On est en... Alors, parfois ça dit 2000, mais j'ai vu qu'en fait vous déposez le nom déjà en 99, je sais pas vraiment quand est-ce que vous commencez, en tout cas le début des années 2000. Puis il y a une particularité d'Az, c'est que tu sais que les années 2000... Pour l'industrie de la musique, c'est particulier. Vous vous lancez vraiment à un moment. Toi, à ce moment-là, tu es chez ce label, Source, directeur artistique. Ça consiste en quoi, d'ailleurs, directeur artistique ? Tu fais quoi chez ce label ?
C'est à peu près l'équivalent, sauf que c'est pas ton argent que tu dépenses. Tu es salarié, tu vois, tu es d'une grosse boîte. Hein. Source, ça appartenait à Virgin. Okay. Donc, on était une sorte, ce qu'on appelait un imprint dans le jargon. Mm-hmm. C'est une sorte de petite marque qu'on avait... au sein du groupe Virgin, qui était un peu la major la plus cool à l'époque.
Oui, clairement.
Et donc, on avait ce micro-label qui avait été lancé 5 ans avant, quand je suis parti. Moi, ça faisait 5 ans que je faisais ça. Et donc, j'étais en charge de produire des disques pour les artistes qu'on avait signés sur le label et d'en signer aussi.
Source, t'as des noms d'artistes? Parce que moi, je connais deux noms, donc c'est que j'ai dû croiser des trucs déjà, mais...
Alors, on avait un peu un grand écart, mais assez malin. J'ai trouvé, monté par donc, un type qui s'appelait Philippe Pascoli, enfin qui s'appelle toujours Philippe Pascoli. Il y avait à la fois Ragasonic,
okay, voilà,
Terry Moïse, des trucs assez mainstream qui passaient beaucoup à la radio, et en même temps on faisait les compilations Source Lab. Les compilations Source Lab, c'est des compilations qui ont accompagné un peu le mouvement, enfin précédé le mouvement French Touch.
D'accord.
Et on avait des instruments, on demandait à des tas de producteurs des instrumentaux. Ça peut être de la house, ça pouvait être du hip hop, du trip hop, de la jungle. Et ainsi, en faisant ces compilations, moi j'étais très très en charge des compilations, et donc c'est comme ça que j'ai rencontré toute une sorte une flopée de producteurs, une génération spontanée, on va dire.
Ouais.
Et voilà, mais je faisais ça entre autres. Je faisais aussi, moi j'ai apporté le groupe R à Source, le groupe Phoenix à Source aussi. Ouais,
d'accord.
Voilà.
Petit nom quoi, tranquille.
C'était des gens d'ailleurs que t'étais allé chiner entre guillemets. C'était.
Bah,
comment ça se passait à cette époque-là pour rencontrer des Phoenix, des R?
Alors R, c'était relativement facile dans la mesure où celui qui a fondé R, il s'appelle Nicolas Godin. Ouais. C'était mon ami quand j'avais 16 ans.
Ok. Donc,
à 16 ans, j'allais chez lui, il me faisait écouter sa musique. Et je faisais des observations sur sa musique. Enfin, on faisait notre futur taf. On n'en avait aucune idée. Et quand je me suis fait engager chez Source, on passait vraiment toute notre vie ensemble, et il m'a dit ouais, s'il te plaît, fais-moi signer, tu me feras signer, ok, quoi. Et donc ça s'est passé comme ça, en fait, comme on avait prédit. J'ai qu'il m'a fait un morceau, je lui ai commandé un morceau de trip hop, je lui ai dit ouais, maintenant c'est le trip hop, c'est ça qui marche. Tu prends un sample de jazz, tu plaques des accords de Rhodes, tu mets un beat un peu, tu vois. Il s'est acheté un sampler, il commençait à faire de l'électro, quoi, en fait, sans savoir. Et donc je lui ai commandé un morceau que j'avais dans ma besace, et un jour j'ai entendu donc Philippe, le boss, râler parce que je sais plus quel producteur avait annulé, il devait participer à la première Source Lab, et finalement il a planté. Donc il avait une place libre, et là j'ai sorti la cassette, et il a aimé, et c'est parti comme ça, en fait, R.
Et Phoenix, c'est aussi un truc de territoire, entre guillemets.
Ah, ça aurait pu, parce qu'ils sont originaires de la même région, donc la banlieue ouest de Paris. Mais en fait, comme ils avaient 5-6 ans de moins que moi, c'est vraiment typiquement... voilà, c'est des petits. Tu fréquentes pas les petits. Enfin, ça dépend qui, hein, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et en tout cas, à certains âges, ça fait des grosses différences, on va dire. Et donc, ils m'ont été présentés par l'ancien manager de Daft Punk, Gilda. Gilda Loaec, qui a monté Kitsune, m'a dit « Ouais, tu devrais t'intéresser à ce groupe. » Il m'a filé la cassette. Je l'ai ramené, j'ai écouté. Moi, je les ai contactés direct.
C'est marrant, parce que quand on raconte ces histoires, tu sais, rétrospectivement, on se dit toujours « C'est un peu facile. » Mais parce qu'en fait, on met en avant des groupes qui vont avoir du succès ensuite. Mais j'imagine qu'on t'a filé plein d'autres cassettes qui n'ont absolument pas donné ce même destin, quoi.
Oui, bah, bien sûr, évidemment.
Oui, on parle que des trucs qui marchent.
Ouais, en général.
Exactement, oui. Non, mais c'est, bien sûr, il y a énormément de cassettes, ou alors des cassettes que j'ai honte, mais que j'ai même pas écoutées, parce que, je sais pas, la jaquette m'est pas revenue, ou des choses comme ça, c'est hyper arbitraire.
Hein. Même sur des démos, il fallait quand même que les mecs soignent le packaging, quoi.
En fait, on va dire, avec l'expérience, tu te rends compte que, je sais pas, il y a des codes, quel qu'il soit, finalement, tu vois, la manière dont on te montre le son, le support, enfin, il y a plein de petits détails, en fait, qui jouent dans ta manière, qui te provoquent l'envie d'écouter ou non, tu vois. Donc, t'es finalement, enfin, un espèce de filtre du public, et s'ils arrivent à générer l'envie d'écouter chez toi, alors que ce ne sont que des maquettes, bah, c'est très bon signe.
Tu vois, oui, c'est logique.
Déjà, le nom, par exemple, le nom du groupe ou de l'artiste, déjà, bah, t'as envie, t'as pas envie, tu vois.
Ouais.
C'est... Ouais. Déjà à ce moment-là, en fait, les musiciens ils commencent déjà,
ils réfléchissent déjà
à faire leur taf, quoi. Ouais.
Qui est autre, enfin plus que la musique, du coup. Parce qu'on a tendance à dire oui, du moment que tu fais ta musique comme tu l'entends, mais en fait non, il faut quand même avoir un petit concept derrière.
Ouais, et pas trop poussé, je pense. Ça m'est arrivé de recevoir des maquettes rutilantes avec des plaquettes, une clé USB qui t'emmène sur un site, hyper chiadé, tout ça. Moi, pour moi, c'est.
Ah, quand c'est trop, c'est.
Ah oh, ouais, ça m'intéresse pas, ça.
Ah, c'est compliqué, hein.
Ouais. Je me rends pas compte. Alors, c'est encore autre chose quand c'est sa propre structure, quand après vous avez, tu vas monter Record Maker, etc. Mais même si on s'arrête sur cette époque source, ça reste en tête parfois des démos qu'on reçoit, des trucs qui d'ailleurs vont jamais complètement prendre, peut-être vous n'allez pas travailler avec eux, mais ça peut rester en tête une musique comme ça, se dire putain ce truc quand même, il m'avait marqué. T'as des exemples comme ça?
Bien sûr, Flatbeat de Monsieur Oiseau, il avait fait la tournée de toutes les maisons disques, moi j'étais chez Source à l'époque, et j'avais pas l'image, c'est-à-dire que je n'avais entendu que le son. Et le son, je trouvais ça étrange, enfin, c'était impossible de prévoir le carton que ça a été. On s'était porté par une pub Levi's.
Ça aide.
C'était l'info que j'avais pas.
Si on peut s'écouter un extrait, ça peut être le premier morceau que tu évoques, Flatbeat, Mr. Oiseau. En vrai, ça fait longtemps que j'avais pas écouté ça. Ça groove.
Ça groove de ouf. Et alors, le truc à savoir, c'est qu'à l'époque, il faisait ses sons, il les couchait sur Nagra.
Ok.
Il se pointait au mastering.
Un enregistreur, donc.
Ouais, l'enregistreur des reporters de Radio France.
Absolument.
Un enregistreur à bande.
Ouais.
Et c'est ça qui a fait son grain. Ah. Le premier album de Oiseau, Analog Worms Attack, c'est entièrement couché sur Nagra.
Étonnant.
Mm. Et c'était une volonté ou c'était juste les moyens du bord, en fait?
Je pense que c'était une volonté d'avoir une sorte de, tu vois, un son qui soit
spécial,
différent.
Ouais.
Exactement.
Comment t'as une position donc dans une boîte qui n'est pas la tienne, mais salarié, j'imagine. Je sais pas si c'est confortable, mais en tout cas, c'est un métier plutôt intéressant en tant que tel. Comment on en arrive à se dire bon bah j'ai envie d'avoir ma propre structure. C'est quoi? On se dit qu'on va gagner plus d'argent ou on a envie d'être plus indépendant, de pouvoir choisir ses propres projets. C'est quoi?
Alors. Moi, je me souviens très bien que donc le type dont je parlais avant, Philippe Ascoli, qui avait monté le label, à un moment, est parti monter la même chose en Angleterre. Donc, il a quitté le navire au bout de 5 ans en France. Et on nous a collé à un autre boss, dont je ne citerai pas le nom, et qui s'était devenu l'enfer, mais immédiatement. Ah, okay. C'est-à-dire que le type, il faisait ses mails en écoutant des albums d'artistes en présence de l'artiste. Il était derrière son ordi, et il regardait, il ne mouffetait pas, il n'était pas du tout concentré sur les écoutes, c'était la honte,
ouais,
pour moi
d'accord.
C'était la honte. Ouais. Donc ça n'a pas été très, très difficile comme décision de quitter ça, parce que j'avais connu mieux en fait, tout simplement, et que moi je voulais la liberté, c'était clairement quelque chose qui m'attirait. Et aussi j'avais compris, en étant dans une grosse boîte comme ça, que ce qui m'intéressait c'était l'artisanat. J'aime pas le côté industriel de la musique, c'est pas moi quoi, ça me correspondait pas. Donc j'étais très attiré par le fait de monter une petite structure. Et c'était un rêve de gosse aussi. Donc on était 4 dans l'aventure et on est parti donc avec Virgin Suicides, la BO de Virgin Suicides. C'était en fait la raison pour laquelle on a monté le label, c'est que dans les contrats d'artistes, ce qu'ils avaient R à l'époque chez Source Virgin, les bandes originales de films ne comptent pas comme un album. C'est-à-dire que on signe pour un certain nombre d'albums et on pensait que cette bande originale devait compter comme un album. Les ventes et les succès d'ailleurs l'a prouvé. C'était vraiment et comme en général les bandes originales de films, c'est très très rare que ça marche. La maison de disques, enfin Virgin, refusait que ça compte. Donc on a dit bah ok, dans ce cas-là, on va monter notre label pour la sortir. C'était ça le point de départ.
C'est ce qui est quand même fou, c'est que ils n'ont pas eu le nez creux, Virgin, parce que ça a été un succès phénoménal, cette BO, globalement.
Oui, et puis elle a succédé à Moon Safari, qui était un succès phénoménal mondial, et qui nous a complètement dépassés. Personne s'y attendait.
Donc Moon Safari était sorti, carton absolu pour R. C'est comme ça d'ailleurs que le groupe vraiment se révèle effectivement à la face du monde. Et en fait, l'album derrière, c'est cette BO, quoi. Et ça a été vu assez vite d'ailleurs comme un album de R. On communiquait de cette manière sur cette BO ?
Oui, on communiquait. C'était un Américain qui avait trouvé cette punchline que je trouvais très bonne. C'était The Dark Side of Moon Safari.
Très bien.
Pas mal.
Et c'est vraiment, vous dites, c'est une chose, tu vois, d'avoir ce projet d'une BO, de vouloir sortir une BO. Et avec les copains, entre guillemets, avec R, etc. On disait, bon, on monte une structure, mais ça vous engage. Forcément, vous êtes projeté. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? On ne pourra pas mettre des albums d'R parce qu'ils en doivent d'abord à Virgin, à Source. Donc tout de suite, vous vous dites, il va falloir d'autres gens, il va falloir... Ouais.
Comme j'étais DA chez Source, directeur artistique chez Source, je voyais beaucoup de musiciens passer, donc j'avais déjà mes petites idées, on va dire.
Ok.
Et ça demande aussi des économies à la base quand même, avoir un peu les reins solides financièrement pour pouvoir se permettre une aventure comme celle-là, au début.
Oui, mais en fait, étant donné qu'on avait ce disque... Virgin Suicides, on a tout de suite signé un contrat avec Virgin parce que les majors sont obsédés par tout contrôler, donc ils se sont protégés entre guillemets d'un succès qui pourrait leur échapper, le succès de Virgin Suicides, en signant un contrat de licence avec Record Makers d'entrée. C'est comme ça, c'est ce qui a permis en fait de financer le début du label, c'est qu'on avait ce contrat de licence qui s'est avéré piégé mais qui nous donnait les coups des franches, on va dire, on avait de quoi investir.
Donc si je comprends bien, un label indépendant, comme les Record Makers, il l'était à l'époque et il l'est encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas d'une major, peut par contre collaborer avec des majors, ça peut arriver ça.
Bien sûr,
pour
bien
la
sûr.
Distribution, pour ce genre de trucs. Ouais.
Tout okay. à fait.
Donc en fait, quelque part, vous avez concurrencé Virgin sur un certain aspect, mais en même temps, en prenant l'argent de Virgin pour pouvoir les concurrencer derrière, ce qui est quand même, tu vois.
Après, il a dit que le contrat il s'est fait un peu douiller, okay. apparemment. Mais...
on a réussi à s'en sortir.
C'est bon, quand même,
mais en fait, on les a concurrencés, mais en fait, dans le fond, le succès, on l'a fait avec eux. Tu vois, le Virgin Suicides, il a marché distribué par eux, donc à la fin, ça va.
Oui, ça va, ils ont retrouvé leur bille dedans aussi, quand même. Ouais, ok. Mais donc, c'était juste un pur aspect de... ils voulaient absolument pas que cet album compte comme un des albums que R devait... Parce que c'est ça aussi qui est marrant, quand même. Quand on parle de l'artiste doit des albums...
Bah, c'est le contrat d'artiste, effectivement.
C'est le contrat d'artiste.
C'est un peu moins valable aujourd'hui, quand même. On parlera un peu d'aujourd'hui, plus tard, mais ça se fait de moins en moins, disons.
Parce que c'est vraiment un méga fil à la patte, en fait.
Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'avocats qui se sont entraînés à faire sauter les contrats d'artistes en les requalifiant en contrat de travail. Et donc, un contrat de travail, chaque partie peut le rompre.
D'accord.
Tu vois ? Donc, l'artiste peut le rompre.
Parce que si, donc, ce contrat d'artiste de base, si donc on signe et qu'ils disent, bah voilà, le deal, c'est que vous donnez 3 albums, qu'est-ce qui se passe si on n'en donne qu'un seul et qu'on décide de le rompre ? On doit de l'argent à la major, on rembourse des avances,
on ouvre une discussion et on trouve un arrangement, c'est ça l'idéal.
Ouais.
Mais oui, ça arrive fréquemment.
Parce que l'idée, sans être trop rentré dans le détail, mais il y a plusieurs types de contrats, puisqu'on l'évoque, autant en parler, parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de nos auditeurs.
Oui.
Il y a plusieurs, on l'a déjà parlé de ça dans l'émission, mais c'est toujours des bons rappels. Il y a plusieurs types de contrats lorsque un artiste veut travailler avec une structure comme un label. Le contrat d'artiste, donc en gros, le label est producteur de la musique, il met les moyens pour l'artiste, c'est ça ?
C'est ça. En gros, ça veut dire que le label paye tout. Toute la création est payée par le label. En conséquence de quoi, il détient les bandes, les enregistrements, les masters. Okay.
Donc pas les compositions. Les compositions peuvent être exploitées par l'artiste ailleurs, d'autres manières, etc. Mais ce qui a été mis, effectivement, enregistré, le morceau en lui-même, lui, par contre, il appartient au label.
Ouais.
Et il y a d'autres types de contrats aujourd'hui
Classiquement, il y a le contrat de licence.
Ouais.
Donc, le contrat de licence, il y a un terme, il y a une durée. Pendant cette durée, l'entité avec laquelle on signe, par exemple l'artiste signe en licence chez un label, pendant la durée du contrat, le label a le fruit de l'exploitation de la musique et il doit reverser des droits à l'artiste.
Okay.
Et à l'issue de ce délai, du coup, les bandes reviennent à l'artiste et il est libre d'aller signer ailleurs pour...
Ouais.
Ouais. Donc l'artiste est propriétaire à un moment donné
de ses bandes,
alors que le contrat d'artiste c'est mort.
C'est mort.
C'est pour ça que, notamment, par exemple, la raison pour laquelle les albums d'MC Solar ont mis 4000 ans à arriver sur les plateformes, c'est que il n'avait pas ses masters.
Il n'appartenait pas directement.
Ouais. Ça, c'est un effet collatéral de, justement, son manager de l'époque, qui était la terreur des majors, mm-hmm. qui est un type qui est décédé il y a quelques années. Lui, c'était le spécialiste pour casser les contrats. Et apparemment, je ne connais pas exactement les détails de l'histoire d'MC Solar, mais il a dû aller un peu loin. Ce qui a bloqué MC Solar.
Oui, c'est ça. Donc, ouais. Oui, ça veut dire que l'artiste peut se retrouver pris un peu en otage.
Ouais, exactement. Le marteau et l'oncle. Il était contre. Oui, tout à fait. Il était contre Universal.
Ouais. Universal. Comme son nom l'indique, ouais. C'est pas. C'est Universal, quoi.
C'est pas propre.
Et le contrat de licence que tu évoquais, le label peut quand même mettre de l'argent dans la production, etc. Ou c'est plutôt à l'artiste de se débrouiller?
Théoriquement, c'est à l'artiste de se débrouiller, de financer ses bandes et ses pochettes et ses clips.
Ah ouais, donc c'est-à-dire que...
Le label peut aider aussi. Ouais.
D'accord.
Intéressant. Vous, dans votre cas, sort donc cette BO, donc c'est la première release chez vous, en fait, de Virgin Suicide. Bon, il y a le morceau, évidemment, Playground Love, qui est un peu le tube, je pense, de la BO, en tout cas l'un des plus connus. On peut s'en écouter un extrait. Mais peut-être que toi, il y a un autre morceau qui est important pour toi sur cette BO, ou que tu aimes particulièrement. Je sais pas si tu l'as encore en tête, cette BO.
Dirty Trip, de mémoire.
C'est vrai ? Eh ben alors, attends. Dirty Trip, absolument. Ce que je te propose, c'est qu'on s'écoute juste un petit extrait de Playground Love, ça parlera certainement aux gens, puis après, un petit extrait de Dirty
Très
Trip.
Très bien.
Finalement.
Oui, c'est un tube absolu.
Très underground.
Après, il faut dire qu'il est bien, ce morceau.
Il est très très bien.
Je me souviens très bien qu'on a écouté le mix de ce morceau. Ouais. On était les quatre du label dans une voiture. Ouais. Et on s'est dit, waouh, ça va rester.
Ouais. Ouais. Ah, vous avez vraiment conscience de ça.
On le sentait qu'ils avaient fait un classique, quoi. Ouais. On le sentait.
Dirty Trip, qui te tient aussi à cœur. Allez. Label, que vous préparez cette BO. Toi, t'as une fonction de directeur déjà pour le label ou vous partagez un peu globalement toutes les fonctions?
Oui, on ne s'est jamais vraiment attribué de titre. Hein. C'est le chauffeur de taxi. Quand tu fais un label, tu ne sais jamais ce qui t'attend dans ta journée. Tu peux te retrouver à aller ailleurs, tu peux aller en studio, gérer un problème urgent, un égo d'artiste froissé, que sais-je.
Parce que ça peut illustrer aussi le rôle d'un label, typiquement sur la BO de Virgin Suicide, qu'est-ce que tu fais toi? Parce qu'il y a les musiciens, on comprend bien ce qu'ils font les musiciens. Qu'est-ce que tu fais, toi ?
Déjà, juste,
ouais, pardon.
Comment ce... Parce que moi, je veux savoir aussi, ouais. La BO, comment le deal est arrivé, tu vois.
C'est... Donc, film de Sofia Coppola, son premier film, si je dis pas de bêtises. Ouais, tu peux peut-être recontextualiser, ouais. Effectivement.
Elle avait tout simplement adoré Moon Safari. Mm-hmm. Bon, c'est Sofia Coppola, donc elle décide de faire son premier film. Forcément, elle a trouvé l'argent pour le faire. Et elle a tout simplement demandé à son groupe préféré du moment de faire la musique.
D'accord.
Elle trouvait que le climat correspondrait parfaitement à ce qu'elle avait l'intention de filmer. Donc la proposition est venue d'elle via Mike Mills, qui avait fait les pochettes de Air Moon Safari, justement. Mm-hmm. Voilà.
Mais du coup, il n'y avait pas encore de film, parce qu'il y a des artistes qui ont besoin de l'image pour travailler sur une musique de film, tu vois. Et là, en l'occurrence, le film n'était même pas tourné.
Alors, la proposition, elle est venue avant qu'elle tourne.
Ouais.
Ensuite, ils ont travaillé à l'image.
D'accord.
Mais il faut réaliser que c'était siècle dernier.
Ouais.
C'était avant Internet, tu vois.
Ouais.
On ne s'envoyait pas de vidéos par mail, quoi. C'était, ouais. Donc, ils recevaient des cassettes qu'ils illustraient et qu'ils renvoyaient. Parce qu'elle était en Californie, ils étaient en France. Et donc une fois qu'ils ont eu fini d'illustrer toutes les scènes du film, et dans les deux cas, les deux types de R attendaient un enfant. Mmh. Elle le savait, donc elle les a pas dérangés. Et c'est uniquement la projection à Cannes, donc en mai, ça c'était en janvier, en mai, projection à Cannes du film. Et là, c'est là qu'on a découvert le film fini. Et
avec
on a découvert aussi qu'elle avait fait sa vie avec, avec ce qu'ils avaient envoyé.
Ah oui.
Elle avait bien édité dans tous les sens.
Parce qu'elle avait accès au stem, etc. ou pas ?
Absolument pas. Elle avait bidouillé avec un ingé son très habilement. Et donc, en fait, à l'arrivée, elle a trop bien fait.
Ouais.
Parce que le climat est là, on reconnaît tout de suite les thèmes. Ça n'a pas vraiment d'importance. Mais eux, ils avaient vraiment fait une illustration au millimètre, quoi, pour les scènes qu'ils avaient reçues. Donc, ils étaient un peu déçus que ce travail ne soit pas gardé. Mais comme ils ont pu sortir leur version, tout s'est bien passé.
Alors... Oui, parce que la question, du coup, c'est ce qui est sorti dans la BO audio, du coup, c'est quoi ? Alors,
c'est leur proposition de R.
D'accord, ouais. Ok.
Et en fait, maintenant, avec le recul, parce que j'aime beaucoup les BO, et je me suis rendu compte que souvent, les très très bonnes BO, elles sont faites comme ça. C'est-à-dire une invitation et une confiance donnée par un réalisateur à un ou des musiciens, et le réalisateur prend tout,
s'approprier
sans,
le truc et...
sans demander à 3 secondes 2, là, tu peux changer la batterie. Mmh. Aucune observation. Et ils s'approprient le truc et font leur vie avec. Et souvent, ça donne des super BO et aussi des très bonnes musiques de films. Sorcerer de William Friedkin, ça a été fait comme ça. Mort de Barbet Schroeder, ça a été fait comme ça. Il y a quelques exemples.
Ok.
Et toi, ton rôle dans tout ça, c'est quoi ? T'es pas musicien directement ? Mais t'es quand même là pour l'artistique, pour l'économique, pour gérer les trucs, je sais pas.
Bah oui, tout ce qu'il y a à faire, c'est ça. C'est donc le deal. Bon, en l'occurrence, c'était mon associé de l'époque, Stéphane Elfassi, qui s'en était occupé. Il y avait les musiciens, organiser le fait qu'il y avait un batteur qui était venu, Brian Redzel, qu'on entendait sur le morceau là, quand on vient d'écouter, qui était venu de Californie pour jouer là-dessus. Ils ont engagé... C'était une très très bonne idée d'ailleurs, un ingé son français qui avait bossé avec Tony Visconti juste pour enregistrer les batteries. Parce que Nicolas Godin avait remarqué que, je ne sais plus quel album c'était, mais il y avait un album produit par Tony Visconti dont les sons de batterie sonnaient fabuleusement bien. Et donc ma mission, ça a été de retrouver le nom Pascal Garnon,
et l'ingé son.
S'appelle l'ingé son, de trouver son contact et de le ramener en studio.
Génial.
Le batteur aussi, ça a été ma mission de le faire venir. Après, ils étaient très autonomes. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils créaient leur musique dans un studio dans la forêt à Saint-Dans-la-Bretèche, donc banlieue ouest. Mm-hmm. Ils allaient là-bas comme un sacerdoce, quoi, parce qu'il n'y avait rien autour d'eux. C'était un studio au milieu de la nature. Donc nous, on passait à écouter quand ils avaient fini, mais la journée, ils étaient seuls. Mmh. Et la chanson Playground Love, qu'on a écoutée tout à l'heure, elle a été créée avec donc, le futur chanteur de Phoenix, mais qui à l'époque était complètement inconnu. Phoenix n'avait rien sorti. Nous, en tant que label, on avait connecté les deux groupes. Parce que R n'avait pas de groupe pour jouer, pour faire les lives télé, les promos radio, les trucs comme ça.
Oui, en tant que duo, il leur fallait plus de musiciens. Quoi.
Voilà. Et Phoenix, on venait de les signer sur le label et on s'est tout de suite dit, mais ça serait super.
Chez Source, donc à l'époque.
Chez Source, ouais, ça serait super de les faire jouer avec R. Donc ils ont fait ça, ils avaient fait ça, donc c'était en 98-99. Et très naturellement, lorsqu'ils ont eu besoin d'une voix pour Virgin Suicides, ils ont fait appel à Thomas Mars, futur chanteur de Phoenix.
Rigolo. Alors, pour pour développer après. Il y a cette BO, mais c'est, j'allais dire, entre guillemets, facile. Enfin, c'est avec les copains de R. Derrière, bah, il faut alimenter ce label. Et il va y avoir une première signature. Alors là, franchement, bien vu, parce que cette première signature, c'est Sébastien Tellier, si je dis pas de bêtises.
C'est ça, oui.
Comment ça se passe pareil? C'est dans la suite de ce que tu faisais chez Source, c'est-à-dire que tu recevais des cassettes, tu recevais des trucs, et tu te dis, bah, vas-y, j'ai envie de travailler avec lui, on le fait.
Alors lui, c'était, encore une fois, bon, un cas particulier, on va dire. Il avait vu un jour un clip de R à la télé. À l'époque, ça, les clips passaient sur M6 et MTV, en gros. M6 Star la nuit. Et à la fin du clip, il y avait toujours les crédits. C'est-à-dire qu'il y avait auteur-compositeur et le label. Ouais. Il a regardé le label qui avait sorti R Sexy Boy et il s'est dit, les types qui ont sorti ça, ils peuvent comprendre ma musique. Très malin. Donc il s'est pointé sans rendez-vous chez Source, avec son meilleur ami. Et moi, j'étais occupé, mais ils ont été reçus par un jeune DA avec lequel je travaillais. Et pour aller dans son bureau, il devait passer par le mien. Donc, j'ai vu passer deux types hirsutes, complètement anachronique, j'avais l'impression de voir les valseuses. Okay. J'ai fini mon rendez-vous, je suis foncé dans le bureau à côté, il avait fini aussi. Je lui ai dit, c'était qui? Donc il m'a intrigué en fait physiquement avant la musique.
C'est dingue, ça peut participer à séduire quelqu'un qui pourra produire ta musique derrière, juste ton look quoi.
Ah, moi j'aime bien les gens différents et là c'était vraiment, ils étaient hyper différents. C'était à l'époque.
Parce que là on est en quelle année là du coup?
98 par là, ouais. Tu vois? Et je sais pas, tout le monde était propre, s'habille un peu comme les ricains, et là ils arrivent complètement hirsutes. Vraiment, les valseuses, c'est la meilleure référence. Hein,
ouais, je visualise parfaitement.
Tu vois?
Ouais, complètement.
Et ils avaient une sorte de sac plastique, un petit baluchon rempli de weed. Et c'était tout ce que j'ai connu après avec Sébastien a été résumé dans cette apparition.
Et ça, c'est dans le cadre de Source, mais Source bosse pas avec Sébastien. Il se trouve qu'il est encore libre, entre guillemets, quand vous montez Record Maker.
Oui, on a quand même sorti un morceau de lui, qui s'appelle Fantino, sur une compilation. Et ensuite, mais je pense que Source n'aurait pas su développer Sébastien, tout simplement. Il y avait vraiment, j'ai pas piqué Sébastien à Source. Moi, j'étais payé par Source à l'époque, mais tout de suite, je me suis dit, mais ça marchera jamais ici. Il faut prendre le temps, en fait, et faire de l'artisanat. Donc, c'est ce que j'ai fait avec Record Maker et Sébastien.
C'était quoi le... Quand tu dis que ça aurait pas pu marcher avec Source, c'est quoi? Il y a des guidelines ou il y a un ADN qui doit matcher avec...
C'est principalement parce que les structures comme ça, les majors en général, mm-hmm. ça aime le succès rapide.
Ouais, okay. C'est encore valable aujourd'hui parce qu'on parle là dès la fin des années 90. Ouais.
Ah ouais. Bah là, aujourd'hui, tu as des DA dans les majors qui sont payés à surveiller les top Shazam. Ouais. Et ils appellent tous les indépendants qui sont dans le top Shazam. C'est ça leur taf.
Ouais, c'est ouf. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle de DA avec le côté la musique vient à toi. Mais pour moi, un DA aussi, c'est justement les gens qui se retrouvent dans des salles confidentielles pour regarder des showcases, des sets de groupes pas du tout connus et tout. Enfin, ça fait partie du truc d'aller arpenter les scènes de France pour essayer de détecter des talents, quoi.
Bien sûr.
Et donc, effectivement, la question, c'est est-ce que ça se fait encore vraiment à l'heure d'Internet, tu vois, où en fait, tu vas sur SoundCloud ou tu vas sur Bandcamp et,
Qu'est-ce que t'en penses, toi, Marc?
Oui, Bandcamp, c'est un bon... SoundCloud, Bandcamp, c'est des bons territoires de recherche. Hein. Mmh. C'est comme ça que... C'est sur SoundCloud que César Vogue, avec qui je travaille, a trouvé Colaboy. Ouais. Donc, un artiste qu'on a signé plus tardivement. Il avait juste un morceau isolé sur son SoundCloud et je crois que c'était dans les favoris d'un autre compte SoundCloud, si je ne m'abuse, qu'il a trouvé ce
collaboré. Quand on est un label, et c'est encore aujourd'hui, là, en 2024, bientôt 2025, on dédie du temps chaque semaine, par exemple, à se dire « je vais les traîner sur Internet, écouter de la musique et voir s'il y a des trucs intéressants ?»
Théoriquement, oui.
Okay. Théoriquement.
Tu veux dire que c'est pas le cas de tout le monde?
En tout cas pas chez nous, mais enfin on le fait un peu. Ouais. Mais c'est là, il y a beaucoup de. Enfin, mon expérience m'a prouvé que les meilleurs artistes, ceux avec lesquels j'ai les meilleures relations et la plus belle collaboration, on va dire, ouais. Donc un peu sous-entendu un peu de succès, sont ceux qui viennent naturellement.
Tu veux dire que c'est aussi par un réseau, des rencontres physiques, des choses comme ça?
Oui, ou par esthétique. On a une esthétique commune, donc on se comprend. Tout de suite, on se comprend. Ils viennent à moi ou quelqu'un me les présente. C'est beaucoup comme ça que ça marche. Et les fois où j'ai signé des artistes qui me sont arrivés Par exemple, une fois, il y a un artiste qui m'a stalké, qui a trouvé mon adresse perso, qui me mettait des cassettes dans ma boîte aux lettres.
Je l'ai signé. Un peu flippant, hein, quand même. Non, ça va.
Légèrement creepy.
Tu l'as quand même signé. T'es courageux.
J'ai fait un disque avec lui. On n'a pas fait le deuxième. Il était dur, quoi.
Okay.
Vraiment dur.
C'est rigolo parce que c'est à la fois génial ce que tu me racontes et en même temps, moi, je peux pas m'empêcher de me dire. Si tu parles un peu d'une forme de réseau qui naît de manière organique, naturelle, hein, plutôt saine, entre guillemets, mais qui déjà a une limite, c'est la limite physique d'un territoire. C'est-à-dire qu'on se dit, si je veux croiser Marc, même si on a une esthétique commune ou des envies communes, il faut que je le croise à Paris, par exemple, parce que vous êtes situé à Paris. Enfin, non, ça peut dépasser les frontières.
Ça dépasse, là, actuellement, chez Recordmakers, on signe beaucoup d'artistes étrangers. Qui ne sont pas à côté de nous, mais juste qu'on a rencontré par les réseaux ou par des amis communs. Et on fait des disques avec des gens qui sont loin de nous. Ça arrivera encore. Okay. C'est beaucoup plus pénible, en vérité. Mais le fait est qu'aujourd'hui, c'est possible.
C'est beaucoup plus pénible parce que du coup, c'est la distance...
Ça peut générer...
Au contact, en fait.
Oui, voilà. Ça peut générer des grandes périodes de silence parce qu'il y a eu une discussion qui s'est un peu mal passée, où on n'est pas d'accord sur le truc. Et donc, chacun grogne dans son coin, en gros.
Ouais, tu peux pas les appeler pour dire, bon, allez, on va se prendre
un café.
On
va manger, on passe l'éponge. Et c'est ce qui se passe la fois d'après, où on se rencontre en vrai, et ensuite, c'est reparti. Mais donc, ça peut générer ce genre de situation.
J'aimerais bien qu'on revienne dans cette idée un peu de chronologie sur votre aventure avec Sébastien Tellier, parce que donc première signature, et puis surtout à l'inverse de R, alors bon, c'était pour une BO, c'était spécifique, mais qui avait déjà une carrière avec Moon Safari, etc. Y a tout à construire quasiment, j'imagine, avec Sébastien Tellier. Et quel est votre rôle, le rôle de Record Makers dans cette ascension? Il va y avoir un premier album un peu radical, puisqu'il est quasi drumless, sans batterie, etc. Puis après un deuxième album, où là, il y a le tube La Ritournelle, je pense que ça évoque, on pourra s'écouter un extrait, et donc qui tout de suite va lui apporter de la lumière. Mais bon, c'est un travail quand même de sape, enfin de
fond.
De fond, pardon, pas de sape. Un travail de fond. Concrètement, ok, toi, il tape dans l'œil. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites, vous? Quel est votre rôle?
On fait en sorte qu'il enregistre déjà. Il a son premier album, L'incroyable vérité, ça a été un long processus parce qu'il cherchait à reproduire la magie de ses maquettes, ce qui est un piège assez classique dans la musique. Les maquettes qu'il avait vraiment très très bien peaufinées pendant des années. Donc une fois qu'il y est arrivé, on a sorti le disque, il a fallu ajuster les visuels, les clips, tout était extrêmement fine-tuné par...
Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que donc normalement on part du principe que la maquette c'est un travail un peu préparatoire et que le travail en studio permet de transcender ce truc là, et lui sa maquette en fait c'était le travail définitif et il a passé du temps à essayer de revenir à...
C'était le son qu'il voulait.
Ok.
Et il avait le son qu'il voulait. Moi ce que j'ai apporté sur le premier album c'est d'appeler Monsieur Oiseau dont on parlait tout à l'heure. C'est comme ça d'ailleurs que je l'ai rencontré. À l'époque il venait de sortir son album d'électronique. Mais il avait ce grain, ce côté granuleux dans le son. Et à un moment, j'ai proposé à Sébastien, je lui ai dit, mais si on demandait à Monsieur Oiseau de mixer ton album. Et Sébastien, ça l'a amusé parce qu'il est assez risqueur, et il aime bien les all-in. Et donc, on a contacté Monsieur Oiseau qui a immédiatement cliqué. On a pris une bière, place Clichy. Au bout de 20 minutes, je me suis barré. Ouais. J'ai senti que c'était bon.
Le courant était passé.
Ouais, le courant était méchamment passé, et on est allé dans l'ancêtre de Motorbass. Philippe Sdard possédait déjà les murs, mais il n'avait pas encore le studio Motorbass, mais il n'avait pas encore installé son studio. C'était une ruine héritée du prédécesseur. Et dans cet endroit, j'avais un deal avec Sdard, je payais la facture d'électricité et il me laissait faire ce qu'on voulait là-bas. Donc on est arrivé, et on a en fait Quentin Dupieux, il a
mis Monsieur Oiseau, hein.
Monsieur Oiseau, 6 ou 7 Space Echo en série. C'est comme ça qu'il a mixé l'album. Oh. Donc il y a une sauce, quoi. Il y a une sauce qui fait que le son était spécial. Voilà, concrètement, ça, c'est pour l'artistique, c'est ce qu'on a fait. Et ensuite, on l'a imposé, Sébastien, on l'a vraiment imposé, notamment quelque chose qui a énormément joué pour lui, c'est que R, au même moment, sorti leur album 10 000 Hertz Legend, 10 000 Hertz Legend, partait en tournée mondiale. Et on a imposé Sébastien Tellier en première partie.
Ah. Ouais.
Ça. Des années après, on s'est rendu compte qu'en fait, ça avait généré un impact. Les gens s'en souvenaient, en fait. Mmh. Il était à la guitare, il y avait une joueuse de Térémine qu'on avait, j'avais rencontrée à Los Angeles, une nana incroyable qui l'accompagnait, mais qui était capable de faire un son de basse, un son de violon, un son de saxo à la Térémine. Donc il avait tous les arrangements qu'il voulait, juste avec une nana à la thérémine, et lui jouait de la guitare. Il arrivait en costume, il était super chic. Et il faisait sa première partie de 25 minutes, et ça marquait les esprits.
Incroyable. On rappelle, le thérémine, c'est cet instrument où, avec des mouvements de main dans les airs, comme ça, ça paraît fou, et ben, y a eu des ondes magnétiques, et donc on module le son juste en jouant avec ses mains comme ça. C'est incroyable. Okay. Et je savais pas qu'il avait fait une tournée avec quelqu'un qui jouait du thérémine.
On a parlé du thérémine avec Laurent De Wilde.
Absolument, avec Laurent De Wilde, absolument.
Dans le numéro 25 de DLT, bien sûr.
C'est le 25, non, tu dis ça au hasard.
Si, c'est pas le premier.
C'est vrai,
je crois. Ouais,
ah, bien vu. Hey, bravo, hey, bravo.
Ça remonte, hein.
c'est donc du ressort du label aussi de trouver un moyen de faire parler de l'artiste.
Bien sûr.
Ouais. Ah oui. C'est même l'un des rôles essentiels.
Ah oui.
Bah là ouais, enfin après tu te dis, bah en fait c'est logique que le label il pousse ses propres artistes avec d'autres artistes, enfin ça aurait été dommage de mettre en première partie quelqu'un d'autre en fait.
Ouais, tout à fait. Il faut convaincre les tourneurs d'ailleurs, c'est ça qu'il faut, parce que c'est pas que vous qui décidez pour la tournée qui remet en première partie.
L'avantage c'est qu'à l'époque on était aussi manager de R, donc c'était assez facile d'imposer, et ça faisait un programme en fait qu'on maîtrisait du début à la fin, plutôt que d'inviter des premières parties aléatoires
locales,
voilà. Ouais. Et donc ça a eu un coût. Il a fallu payer pour ça, mais ça avait vraiment un impact sur les gens. Et bon, Sébastien était évidemment ravi parce que il a commencé.
Commencé avec une tournée mondiale.
Exactement.
C'est pas mal.
et les R étaient ravis aussi parce qu'ils s'entendaient très bien et que ça les mettait en valeur d'avoir un artiste, un vrai artiste en fait, avant eux, quelque chose de, un spectacle avec une proposition radicale. Ça marchait.
Il y a un morceau que tu as encore en tête de ce premier album, L'Incroyable Vérité, qui sort en 2001, c'est ça, non ?
Je crois, 2001.
2001, ouais.
Bon, je dirais Fantino.
On s'écoute un petit extrait quand même pour voir à quoi ça ressemble. Quoi, Marc, en écoutant ça, je me dis que c'est pas forcément une musique facile à vendre.
Ah non, c'était pas facile à vendre.
Qu'est-ce qu'on trouve comme parade pour mettre en valeur cette
musique ? Le nombre de gens du business qui m'ont dit ça marchera jamais, perds ton temps. Nous, on y croyait en fait. On y croyait dur comme fer. Donc,
pourquoi ? Parce que tu disais le mec est trop génial, le mec chante trop bien, le mec compose trop bien, je sais pas. C'était quoi ces signes ?
Talent, quoi. Juste, moi, c'est ça qui m'attire dans ce métier, c'est quand je vois des gens de talent, en fait. Lui, là, c'était évident, il était bourré de talent. Il savait composer comme personne, il avait une touche personnelle, c'était profondément original. Ça, il faut le remettre dans le contexte. En tout cas, pour parler de la France qui s'exporte, on va dire, c'était la French Touch première vague à ce moment-là. Et lui, il fait de la musique acoustique à ce moment-là.
Ouais, c'est ça, ouais. Parce que là, j'étais en train de me dire, mais pourquoi c'est considéré comme de l'électro, là ? J'entends une guitare et.
En réalité,
et un orgue.
Il était dans les bacs techno.
Okay,
comme ils étaient sur le label de R, ils étaient dans les bacs techno. On n'arrêtait pas de leur dire, les distributeurs, les Virgin dans le monde entier, on leur disait, mais arrêtez, ça n'a rien de techno.
Parce que lui, du coup, Sébastien Tellier, comment il qualifiait sa musique de quoi, lui ? C'était quoi ? Parce qu'il fallait toujours avoir quand même une étiquette, justement, pour être classé dans les bacs. Donc,
C'est une bonne question, je ne me souviens pas.
Ouais.
Je me souviens pas.
Et vous n'avez pas besoin d'une étiquette pour le vendre, entre guillemets, à l'époque ? Il n'y a pas besoin de qualifier sa musique ?
Je dirais qu'on vendait surtout son personnage.
Ah, intéressant.
c'est cette apparence qu'il avait, qui m'avait tout de suite interpellé quand je l'ai croisé la première fois. C'est ça qu'on mettait en avant. Il avait vraiment il était très charismatique et puis il était sans souci, très à l'aise devant les caméras. Donc voilà, autant qu'on pouvait, on le mettait devant les caméras. Et...
Donc c'est vraiment l'image. C'est oui. Fou. Finalement plus
mais,
que. Et
mais après, je me suis rendu compte quelques années après que ce disque-là, en fait, il a marqué les esprits de plein de gens. Mais il a fallu le temps pour qu'on le sache. Par exemple, Gaspard Auger de Justice, c'était un de ses albums de chevet. Il a oui, comment dire aujourd'hui, poncé.
Exactement. Ok, oui, donc en fait, c'est un truc qui est devenu une référence pour des artistes qui sont devenus artistes oui, plus tard.
C'est un peu l'artiste adoré ouais. des artistes.
Ouais, ok.
C'est intéressant ta réflexion. Enfin, tu nous dis que vous avez insisté sur le personnage. Moi, forcément, je me dis... est-ce que c'est quasi un passage obligé pour un artiste ? On peut parler d'aujourd'hui, parce que là, entre passé et présent, il faut être un personnage ou c'est pas une obligation, franchement ? Ça aide bien quand même là,
ça aide. Ouais. Ça aide beaucoup. Surtout maintenant.
Tu recherches ça, toi, quand tu vas produire des gens ? Tu cherches des personnages aussi ?
Ça peut aider à motiver, oui, bien sûr, bien sûr. Quelqu'un. Moi, ce que j'adore aussi chez les musiciens, c'est quand ils ont d'autres intérêts que la musique. Par exemple, un musicien féru de littérature ou de cinéma, ça m'intéresse beaucoup.
Et ça doit transpirer dans sa musique ou c'est en le rencontrant à côté et...
Ah bah non, d'abord t'es interpellé par la musique, c'est quand même... ou son personnage, voilà, et après on écoute la musique et après on apprend à se connaître, on discute, on se montre des morceaux, évidemment on se fait écouter des morceaux et tout, mais à un moment il y a des discussions un peu périphériques, on va boire des coups, on dîne, on... C'est un travail humain hein, quand même, c'est ça qui est bien. Et là, quand, par exemple, Cola Boy, pour revenir à lui, c'est le premier Américain que j'ai rencontré qui ait aimé le film Starship Troopers de Peter Levy.
Ah oui,
à chaque fois,
les
ce
Américains,
film,
ils aiment pas.
Ils aiment pas. Ils aimaient pas. Ouais. Il a eu le Starship Troopers. C'est Sébastien Tellier qui me l'a montré la première fois. C'est un film qui quand même a eu le prix Citron, enfin l'équivalent, je sais plus comment ça s'appelle à Los Angeles, le pire film de l'année.
Ah, c'était les Radzi, non les
Radzi. Ah voilà, Radzi.
Ouais, bien sûr.
Et Paul Verhoeven s'est pointé pour prendre le prix.
Il a dit, Verhoeven, ouais.
J'ai l'impression d'être arrivé, j'ai un prix à Hollywood.
Ils sont arrêtés au vernis nanardesque, peut-être.
Bah, c'est-à-dire que les gens, quand tu le comprends de travers, ce film, les gens croient que c'est une ode au fascisme, alors que c'est tout l'inverse. Quoi.
C'est tout l'inverse, mais surtout, ouais. Ils se moquent énormément des États-Unis.
Bien sûr, bah oui, vous voulez en savoir plus, ouais. Bien sûr.
Mais voilà, quoi, pour revenir, donc, Cola Boy, quand j'ai compris pourquoi on s'entendait si bien. Comme il m'a dit, ouais, Starship Trooper, j'adore, c'est mon frère qui m'a montré ça. C'était le premier Américain que je connaissais. Et j'adorais tester. Genre, ah, tu l'as vu ce film là,
quand oui, pour voir un petit peu comment tu
ah oh, ouais, quelle bouse. Ou alors, ah non, laisse tomber, j'avais même pas envie de le voir.
Bah, le film est devenu culte après, comme souvent d'ailleurs, avec les réalisateurs européens qui bossent à Hollywood. Mais ouais, Starship Troopers, bon
film.
Bon film et bon moyen effectivement de, de placer les gens.
Ouais.
Mais alors, du coup, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir un artiste dont tu trouves que la musique est super, mais où tu te dis, bah, comme ça passe pas humainement, en fait, on va pas bosser ensemble?
Oui, ça m'est arrivé souvent de m'en rendre compte au bout d'un album, par exemple. Et d'accord. Donc d'arrêter après.
Donc là, par exemple, le cas du gars qui t'avait
ouais.
Stalké. Et...
Ouais, voilà.
Okay. En même temps, ça partait mal.
Ouais. Bah, pourtant, la musique était chouette. Hein.
Ouais.
Mais ça a pas marché, et après, bon, voilà, on s'arrêtait là.
On en parlera après, parce que ça m'intéresse. Tu sais.
Il y a un autre album de Sébastien Tellier qui va arriver en 2004, donc qui est Politics. J'évoquais la ritournelle. Est-ce que c'est un chamboulement évidemment pour l'artiste ? Est-ce que c'est un chamboulement pour le label aussi ?
Oui, d'une certaine manière. C'est un chamboulement pour le label parce que on a dû mettre pas mal de moyens sur ce disque. C'est-à-dire qu'on
en amont, avant même pour la production, tu veux dire ?
Pour la production, oui. L'enregistrement et tout ça, ça a été assez coûteux. Donc, bon, ça a généré des problèmes dont je n'ai pas forcément envie de parler, mais oui, c'était un peu un disque problématique, on va dire.
Ok.
C'était
douloureux, tu veux dire, pour beaucoup de gens
Non, il a généré des problèmes après, mais aussi des choses géniales, donc tout va bien.
Ça, c'est le deuxième album, du coup ?
Ouais.
D'accord.
Donc, en fait, c'est l'album où il avait fait son premier album qu'on a évoqué tout à l'heure, sans rythme, parce qu'il voulait que ça soit indatable.
Pas mal.
Parce que le beat, c'est le Carbon 14, quoi, de la musique. Et donc, là, il passe au rythme. Il me demande conseil. Qu'est-ce que t'en penses ? On en parle entre associés, enfin, dans le label et tout. Et il se trouve qu'il avait, fait l'acteur pour Quentin Dupieux sur son premier film expérimental qu'il a payé de ses propres deniers avec en gros l'argent qu'il a gagné grâce à Flatbeat. Et il a fait un film expérimental qui s'appelle Non Film, qui est assez étrange. Mais Stellier jouait le rôle principal dans ce film-là. Et sur le tournage, il a découvert Fela Kuti. L'ingé son du film lui faisait écouter Fela et il est revenu, il m'a dit ouais, Fela Kuti, incroyable. J'ai dit ouais, t'as vu, génial. Et en fait, moi j'avais entendu dire que Tony Allen habitait à Courbevoie. Et quand il m'a dit bah, j'aimerais bien mettre de la batterie sur mon prochain disque, mais j'ai besoin du meilleur batteur du monde, je dis bah, Tony Allen. Et c'est comme ça qu'on l'a contacté en fait.
C'est incroyable, ça fait 3 épisodes c'est de fou, suite. Cerrone hein. a bossé avec Tony Allen, Jahil a bossé avec Tony Allen, ouais. Et là on évoque à nouveau Tony Allen.
Bah, Tony Allen, c'était quelqu'un.
Donc c'est lui qui fait la batterie sur la ritournelle. Bon, ouais. Allez, le morceau est long, tout le monde le connaît, mais un petit extrait quand même pour recontextualiser.
D'être amoureux, de rentrer chez Boursorama et d'acheter une Lexus, c'est incroyable.
Mais tu vois,
ça provoque plein de d'émotions comme ça, contradictoires.
J'avais dit un petit extrait, et en fait, t'as envie d'écouter la suite.
Bah ouais.
Là, j'ai envie de l'entendre chanter un peu, tu vois. On va voir si ça arrive. Ça arrive bientôt là ou sinon j'avance. C'est là.
Ça, c'est comme avec Playground Love, vous entendez ce truc-là où vous dites « Ok, carton nucléaire ou... »
Carton non, mais très belle très chanson, bon, ça, très on savait. Musique, ouais. Très belle chanson, on savait. Ouais. C'est Philippe Dard qui l'a mixé, il a mis, je crois, 3 ou 4 jours à le mixer. Donc c'était, on payait la journée, ce qui était très long. Mais il disait « Non, attendez les gars, vous avez vu ce qu'on a là, faut le faire bien. »
Ouais.
Et c'est un morceau, donc la batterie, comme je le disais, est jouée par Tony Allen. C'est la première prise, il faut le savoir quand même.
Ok. Il en a fait une seule, de toute façon.
Il en a fait une seule. Après, il allait chercher son fils à l'école. Sébastien a été dégoûté. Genre. Mais il savait qu'il avait fait une bonne prise. Il avait de la bouteille. Et donc, on a eu beaucoup de... Ça a été joué par beaucoup de DJ. Cette sortie, donc, à l'époque de... Bah, début 2000, quoi. Donc, il y avait vraiment... L'électro était cartonné. Et beaucoup de gens étaient surpris d'apprendre que c'était une vraie batterie jouée. Mmh. Beaucoup de gens pensaient, en fait, de producteurs pensaient qu'elle était programmée, tout simplement. C'est là où c'était vraiment une chance pour nous d'avoir pu travailler avec Tony Allen sur ce disque parce que
il apparaît que sur la ritournelle ou il est sur d'autres
dans
morceaux
dans 3 morceaux je crois, je sais plus exactement mais quelques morceaux, 3 ou 4.
Et tu nous disais que vous avez investi des moyens pour la production de cet album parce que il y avait de l'ambition, j'imagine, une ambition artistique.
On déjà 4 jours de mix pour un morceau déjà.
On entend des cordes, on entend etc. J'imagine que ça a un coût. Parce que vous vous dites, ok, il y a eu le premier album, il faut passer la seconde sur cet album-là et ça va être rentable. On met du fric et on sait qu'il va y avoir quelque chose.
Franchement, on ne se posait même pas la question de la rentabilité.
Ah ouais.
Ouais, on était au feeling, quoi.
Vraiment. Vous n'avez pas peur pour votre business. Tu vois, ce n'est pas une question de « on veut gagner de l'argent », mais juste de se dire « il ne faut pas qu'on mette en péril non plus notre boîte, notre vie », tu vois.
Alors, on n'a pas été jusqu'à mettre en péril la boîte. quoique. Mais, mais non, mais on était vraiment à l'instinct. À l'instinct. Et on sentait qu'il allait faire des belles choses. Et donc, il avait sa vision, il avait son thème politique. C'est, voilà, on l'a suivi. Mais ça, la ritournelle a mis du temps à marcher. Hein. Ça, au début, quand c'est sorti, c'était. Bon, il y avait évidemment les bonnes oreilles qui disaient waouh, super chanson et tout. Mais c'était un petit club de gens. Et la Virgin ne nous aidait pas du tout. On était encore chez Virgin, distribué par Virgin à l'époque. Et il a fallu que, en fait, on sorte de notre contrat avec Virgin. On a trouvé une paire d'oreilles anglaises, un type de ma connaissance dont je savais qu'il avait l'oreille, bah, le type qui avait signé les Daft Punk en édition, par exemple, ce genre de gens. Ouais. Et il avait son petit label et il l'a sorti en Angleterre. Et bon, bah, voilà, les Anglais, c'est les meilleures oreilles du monde, à mon avis. Et ça a marché fort là-bas. On vendait pas mal de 12 inch de Maxi, de la ritournelle, et ça a relancé le morceau, en fait. Et après, il y a eu. Boursorama,
Lexus,
L'Oréal.
Je me lançais les noms au pif, mais,
non, mais c'est à peu près ça, je ne sais pas par cœur. Mais ça a commencé par L'Oréal. Et c'est, ironiquement, la première synchronisation de la ritournelle, c'était une reprise atroce. Donc, en fait,
ils aiment bien faire ça aussi.
Je ne sais pas si vous savez, mais quand on synchronise un morceau, si c'est une reprise, ils ont pas, c'est eux qui financent la reprise, donc ils n'ont pas les droits master à payer. Ils n'ont que les droits éditoriaux à payer.
Ok.
Donc, ils avaient fait une reprise pour l'adapter à leur spot de pub. C'est ouais.
Pour ça qu'ils font tout ça là, avec des reprises de Nothing Else Matters de Metallica, ah ouais, l'harmonica et tout. Bah ouais, en fait, tous les constructeurs de bagnoles, à chaque fois, ils font des morceaux genre c'est une réinterprétation. Bah oui, mais ça coûte moins d'oseille, surtout que si tu prends l'original. Quoi.
C'est le rôle du label que d'aller solliciter les L'Oréal, les machins comme ça, ou c'est eux qui viennent à toi?
Là, c'était eux qui étaient venus à nous, mais oui, bien sûr, ça fait partie des rôles du label de montrer, en fait. Mais c'est toujours pareil, en fait, les gens de la pub, si on les sollicite trop, on n'est pas sexy pour eux.
Oui, il faut que ça soit un
petit
peu... Il faut
que ça leur arrive par... C'est des parties de billard à trois bandes, en fait. Mmh. Si ça leur arrive naturellement par leur entourage, par exemple, tout d'un coup, là, c'est beaucoup plus fort, en fait, leur intérêt.
Il faut se faire désirer, quoi.
C'est ça.
C'est marrant parce que vous y croyez, ça marche. Je prends un autre exemple. Je crois que c'est votre deuxième signature. ARPANET, c'est votre deuxième signature ou pas?
C'est ça, ouais. Deuxième signature, ouais.
ARPANET, musique radicale aussi, comme Sébastien Tellier l'est à la base. D'ailleurs, tu nous as ramené un vinyle d'ARPANET. Moi, par exemple, je t'avoue que j'ai découvert ARPANET en préparant cette émission. De ce que j'ai vu, j'ai cherché un peu, le groupe est culte, enfin le mec est culte, il fait de la techno, il vient de Détroit, il est vraiment dans la culture, quoi, de la techno. Mais je pense pas qu'il ait perduré et que ça ait été un succès commercial phénoménal. Alors ça, vous le saviez pas encore, mais comment on récupère un mec comme ARPANET? Comment on le développe? Est-ce qu'on s'attend au même succès que Sébastien Tellier? Est-ce qu'on le travaille de la même manière?
On peut pas le travailler de la même manière parce que chaque artiste est différent. Lui, sa manière d'être, on va dire, c'est d'être complètement caché.
Okay.
Donc déjà,
tu peux pas jouer sur le personnage.
Voilà, tu peux pas jouer sur le personnage. Il a un monde, une musique assez sombre. Bon, c'est la seule manière de le vendre, entre guillemets, c'était de le présenter tel qu'il était, c'est-à-dire un pionnier de la techno de Détroit qui fait de la musique brillantissime. Ça, pour moi, c'est cet album-là. Il est donc le premier.
Wireless Internet.
Wireless Internet, c'est donc en gros en 2001 ou 2, je ne sais plus.
2002.
Ça peut sembler un peu benêt aujourd'hui, mais il annonce que la vie quotidienne qu'on a aujourd'hui, donc c'est très Kraftwerkien dans ce sens, c'est-à-dire qu'il annonce le téléphone mobile dans la poche, mais à l'époque on n'avait même pas idée que ça allait exister.
Oui, c'est vrai que là, je lisais les titres des morceaux iMode, NTT Docomo, donc qui est l'opérateur japonais, Software Version, Devoid of Wires. Ça fait très, tu sais, Y2K, Matrix, mais en fait, on est en plein dedans. C'est vrai que, ouais. Là, à l'époque, c'était à la pointe. Là, maintenant, c'est un truc où tu dis, tu sais, c'est un peu suranné, tu vois.
Ouais, tout à fait, ouais.
Alors que, ouais, à l'époque, il était dans le turfu, quoi.
Mais on a essayé d'aller voir NTT Docomo lors d'un voyage au Japon. On a utilisé l'influence de R pour avoir un rendez-vous chez NTT Docomo pour aller voir les gens de la com là-bas, ouais, pour leur dire faisons quelque chose. Regardez, vous avez un artiste génial qui parle de votre marque, c'est le nom d'un morceau et tout. Ils nous ont reçus très poliment parce que les Japonais sont très polis. mais ils voyaient pas du tout ce qu'on voulait faire.
Pareil pour iMod, hein. Le iMod c'était l'internet mobile japonais qui avait été mis sous licence par Bouygues Télécom ici.
Avant le WAP.
C'était en même temps à peu près. Le WAP c'était notre internet mobile à nous qui était nul. Le iMod tu pouvais genre avoir des petites images, et ça téléchargeait pas en 8 heures. Donc, okay. Ah bah ça t'étais pas né toi à l'époque. Mais...
bah si j'ai connu le WAP mon gars, bien sûr. Sur Wireless Internet d'ailleurs, pour qu'on découvre la musique de Arpanet, il y a un morceau. Alors tu vois là, par exemple, je suis sur Spotify, Illuminated Displays est clairement l'un de ceux qui a le plus de lectures, d'écoutes. C'est le cas aussi de Wireframe Images, de Wireless Internet. Mais peut-être qu'il y a d'autres morceaux, toi, qui tiennent à cœur, j'en sais rien. Si on doit en choisir un sur ça.
Moi, je mettrais celui que tu as cité en premier.
Ouais.
Celui qui a le plus d'écoute.
Illuminated Displays. Allez, on s'écoute ça pour découvrir Arpanet.
Ah, t'as envie de hacker le Pentagone.
Alors, en écoutant, ça m'évoque deux trucs. Le premier truc, c'est autant entre R et Sébastien Tellier, on peut trouver une espèce de filiation esthétique.
Oui, j'allais le dire. Ouais. Là, on est en contraste.
Là, on est complètement dans autre chose. Donc, cet élément ajouté au fait qu'on ne peut pas jouer sur le personnage. Comment vous développez un artiste comme ça? C'est quoi est-ce qu'il y a des stratégies, entre guillemets? Qu'est-ce qu'on fait?
On a tout essayé. On a produit un ou deux clips de mémoire. Enfin, c'était lui qui les réalisait avec sa femme. Et on a trouvé un bon distributeur après Virgin, parce que au début, Virgin a fait n'importe quoi avec ça. Il ne savait pas comment le distribuer.
Quand tu dis ça, pardon, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le bon réseau, c'est pas les bons disquaires,
c'est trop petit pour que ça les intéresse, en résumé, à l'époque, tu vois.
Et, mais, ils n'investissent pas assez, quoi.
On était prêt à se damner, quoi, pour lui. Moi, c'est de la musique, fait partie des disques que j'ai produits sur le label que je préfère. Pour moi, c'est un vin de Bourgogne, ce truc, quoi. Plus les années passent, meilleur c'est.
Ce qui est intéressant, c'est que l'image. Elle est courtesy of nttdocomo.com.
Oui, c'est lui qui a crédité. Il a été nerdé un truc. Je le connais toujours. Hein, c'est devenu un bon ami. Il est tout le temps en train de fouiller dans des trucs qui m'échappent complètement. Il est à la pointe de la science.
Ouais, il va chercher les petites refs.
Ouais, même des grosses refs. Ouais. Il donne une sorte d'épaisseur. Parce que lui, bon, Arpanet, c'est le projet qu'il a fait sur Record Makers, mais il en a énormément d'autres. Pour le situer, il s'appelle Gerald Donald. Il a fait un projet avec sa femme qui est toujours en activité, qui s'appelle Doppler Effect, qui est cultissime dans le monde de la techno. Il a été un des fondateurs de Drexia, qui est le groupe de Détroit de la fin des années 90, qui a inventé toute cette espèce de chaud-froid, je ne sais pas comment on peut dire, de la techno de Détroit. Et il a énormément d'alias. En fait, à chaque fois qu'il changeait de label, comme sa musique ne vendait pas, il allait chercher des avances dans les labels en faisant des disques. Donc il changeait de nom à chaque fois pour aller prendre une avance. En gros, c'est ça son business. Et maintenant, je suis très content pour lui parce qu'il s'est mis à faire du live, ce qu'il faisait très peu à l'époque. Et en live, comme il est culte, c'est ça qui le fait vivre aujourd'hui. Mais c'est quand même, il faut savoir, c'est un artiste qui se produit en live, ne joue jamais le même la même setlist. C'est-à-dire qu'ils jouent jamais ces tubes. Tu peux pas aller voir ARPANET ou Doppler Effect en concert et entendre le classique que tu avais adoré dans les années 90, il va pas le jouer. C'est que de la musique originale à chaque fois.
Ouais, donc c'est compliqué de capitaliser sur...
Je lui ai expliqué plein de fois, je lui ai dit vraiment, franchement, tu prends tes tubes, tes classiques de Doppler Effect, tu les joues sur scène, mais tu vas te retrouver en headline au Sonar, c'est sûr. Mais c'est pas sa culture, c'est impur. C'est vraiment impur. Mais il est fantastique.
Comment on gère ça quand on est un label? On est persuadé qu'il y a des orientations à prendre pour un artiste. Lui n'a pas envie. Ça peut arriver. Qui gagne?
C'est l'artiste, hein, en général. Ouais. C'est difficile de forcer un artiste à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Non, moi, je conseille, plus ou moins lourdement.
Ça peut être aussi un motif de rupture quand vraiment on ne s'accorde pas?
Bah oui, évidemment. Ah oui, s'il n'y a pas d'entente, ça ne sert à rien. Surtout dans une petite structure comme ça, c'est vraiment tout l'intérêt, c'est l'entente, en fait.
Oui, mais du coup, tu disais quand même que par rapport à une grosse structure, un petit label prend le temps de développer aussi l'artiste, la relation, donc t'es pas en attente de résultats immédiats.
En tout cas, moi je suis patient. Quand j'y crois, je suis en train de produire un disque avec un artiste dont on parlera peut-être, je sais pas si vous avez prévu d'en parler, qui s'appelle Turzi. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait des disques ensemble. Et bon, voilà, je continue, quoi. C'est un gars à qui je m'entends super bien, je suis fan de sa musique, ça me suffit pour être motivé, en fait.
Ok.
Et ça m'évoque d'ailleurs un truc, dans un roster, entre guillemets, quand un label a plusieurs artistes, est-ce qu'il y a aussi une logique d'équilibre, à savoir, bon, bah on assume qu'il y a certains artistes qui vont connaître un succès commercial et donc ramener des sous, et puis ces sous, ils vont permettre de financer peut-être des artistes qui, eux, en ramènent moins. C'est une logique un peu comme ça, ou pas forcément?
Par la force des choses, oui. Ouais. Bah, on disait toujours que le modèle des grosses boîtes, des grosses majors, c'est un succès pour 9 échecs.
Ah ouais, ouais.
En tout cas, c'était le modèle fin du siècle, quoi, on va dire. Okay. Nous, on peut pas se permettre ça. Donc, la voilure est plus petite, et on essaye de faire en sorte que tout marche à peu près, mais évidemment, c'est pas du tout une science exacte, donc... Souvent, c'est pas le cas, mais c'est pas grave, on continue.
Ça serait quoi? Tu disais 1 sur 9 à l'époque? Vous pouvez pas vous le permettre, tu dirais que ce serait quoi pour Record Makers aujourd'hui?
Peut-être 1 sur 3, peut-être.
Ouais, quand même.
Vraiment, on doit mouiller. Hein.
Ça met une certaine pression.
Et du coup, ouais, quand il y a comme ça, donc, quand le label il commence à avoir une aura, une couleur, une identité, forcément, c'est aussi un gage de qualité perçu que d'être signé sur ce label. Il n'y a pas de problème d'ego entre artistes qui se disent c'est moi qui ai contribué à donner cette couleur-là, pourquoi est-ce que je ne suis pas plus...
Tu sais ce que je suggère, parce que ça serait la deuxième partie autour de l'identité du label. Ouais. Et ça peut être une super transition. Il y a peut-être un truc dont on peut parler juste avant. C'est que, parce qu'en plus, quand on parlera d'identité, on va parler ensuite de la suite, tu vois, plus les années 2010, etc., pour Record Makers. On l'a évoqué à un moment, les années 2000, c'est quand même la crise du disque. C'est-à-dire qu'on a une industrie florissante qui, tout d'un coup, se heurte au piratage, à de nouveaux modèles de consommation. C'est pas que le piratage, c'est Internet débarque, il faut s'adapter. Vous, je sais, il y a une histoire intéressante, c'est que, au début, vous prenez de beaux locaux dans le Marais. Ça envoie un peu du lourd et tout. Vous êtes fiers de pouvoir amener les artistes, les collaborateurs et tout dans vos beaux locaux. Et puis en 2004, vous dites, oula, on va peut-être laisser tomber les beaux locaux. Tu peux nous raconter ça?
Oui, c'est vrai. On avait des bureaux. Ça ressemblait un peu à des bureaux d'avocats avec du parquet, des moulures. On était bien, hein, en plein cœur du Marais. Maintenant, quand j'y repasse dans ce quartier, c'est rue du Temple. C'est devenu un peu Disneyland. J'ai vraiment pas de regrets d'en être parti pour le 18e. C'est maintenant qu'on est. C'est là qu'on est maintenant, pardon. Dans le nord de Paris, tout près de la porte de Clignancourt, dans un quartier pour le coup vraiment hyper vrai, hyper que des gens qui habitent, que des locaux.
Ça doit être d'autant plus vrai en 2004, où c'est encore vu comme des quartiers 2004, compliqués.
C'était, ouais. 2004, c'était chaud, ouais. Honnêtement, ouais. Mais on est arrivé là, c'était la seule solution qu'on avait, parce que, bon bref, il y avait des problèmes, on va dire, à gérer, et notamment économiques. Et donc, il fallait à tout prix qu'on réduise notre loyer. Et donc, on a entendu parler d'une initiative, brillante initiative de la mairie du 18e, qui consistait à rouvrir, c'était une sorte de quartier, un peu un ghetto. Et il y avait des boutiques fermées en bas des immeubles, des logements sociaux. Et les boutiques étaient fermées depuis des décennies, on l'a appris après. Personne ne voulait s'installer là, aucun commerce ne voulait... Il n'y avait pas de perspective de prospérer. Voilà. Ouais. Et donc, ils se sont dit, en fait, comme c'est la crise dans la musique, on va accueillir des structures musicales dans ce quartier, rouvrir les boutiques, et ça va redynamiser le quartier. Et franchement, sur le papier, nous, on est allés juste parce que c'était pas cher. Et avec le temps, il faut reconnaître que ça a marché, ce truc a marché. Bon, je dirais pas que les populations entre ceux qui habitent et ceux qui viennent travailler se mélangent plus que ça, mais ça vit en harmonie. Et puis il y a du monde dans la rue tout le temps. Et les gens qui travaillent dans la musique, ils sont assez ouverts en général quand même.
Donc... Ah ouais, ça tu penses sincèrement ?
Ah oui, je trouve, ouais.
Okay.
Ouais, ouais. Et donc ça, voilà, ça s'accepte. Et c'est génial parce que le quartier s'est un peu gentrifié depuis, mais lentement. Et vraiment, là, c'est devenu le quartier des musiciens. Tout le monde veut habiter là-bas, enfin, dans le monde de la musique, dans mon petit monde de la musique, on va dire. Il y a beaucoup de gens qui veulent habiter là-bas.
Et ça vous pose pas question quand vous débarquez dans le 18e en 2004, vous, plutôt, j'imagine, issu de l'Ouest parisien, plutôt de famille favorisée, en tout cas, c'est ce que j'imagine.
Clairement.
À bosser dans la musique et tout, ce décalage, il est pas trop difficile à vivre?
C'était la survie du label, donc on n'a pas réfléchi, tu vois, on l'a fait, quoi. Mais c'est vrai que quand tu sortais à 10h du soir de la boutique, tu rasais les murs un peu, tu vois, c'était...
Ouais, Clignancourt en 2004, c'était...
C'était chaud, ouais.
Ouais, c'était quelque chose.
Chaud, ouais. Mais bon, ça va, tout le monde a survécu. Et puis, on est arrivé dans un local franchement délabré, donc il était très peu cher.
Ancienne boulangerie.
Ancienne boulangerie, mais vraiment abîmée. Et donc, on s'est installé là-dedans... n'ayant pas trop les moyens de faire des travaux. Donc les travaux, ça, on les a fait avec le temps, on va dire. Et maintenant, c'est super. On a un super local. C'est difficile à quitter, d'ailleurs, tellement on est bien.
Et on ne se dit pas aussi, et je parle des milieux dont vous êtes issus, de se dire, putain, qu'est-ce que je fais avec mon boulot ? C'est-à-dire que je me retrouve dans la merde financièrement. Je n'étais pas forcément destiné à ça. Il y a cette question aussi qui peut se poser.
Faire médecine.
Ouais, je ne sais pas. Toi-même, personnellement, tu vois, tu peux parler que pour toi, mais...
Ouais, moi, je sais pas, j'ai toujours eu un toit et à manger, même dans les années de disette, on va dire, parce que ces années-là, ça correspond vraiment aux années les plus tendues. Et sachant que j'avais quitté une situation où j'étais super bien payé quand je bossais pour la grosse boîte, pour Source. Mais j'avais pas d'enfant à l'époque, j'avais pas trop de responsabilités. Avec ma copine, on vivait bien là comme on était, donc ça s'est passé, et puis après, c'est revenu. Mais oui, c'est clair qu'il y a eu des bas. Après, moi, c'est rien à côté de la vie d'un artiste. Hein. La vie d'un artiste, c'est les hauts, les bas, il faut vraiment être prêt, quoi, quand tu décides ça. Enfin, c'est pour ça que tous les parents, dont les enfants disent « Ouais, je vais faire de la musique », à chaque fois, c'est la grimace des parents, parce que waouh, c'est risqué, quoi.
C'est vrai pour toi, tu confirmes ça?
Bien sûr, bien sûr. C'est les hauts, les bas, ou alors ça décolle jamais. Enfin, c'est fort en émotion, c'est fort en stress, c'est fort en... Ça explique aussi un peu le comportement erratique de certains artistes, parce qu'il y a une grosse pression, quoi. Vraiment une grosse pression.
Et à l'échelle du label, on comprend que c'est des années difficiles. Est-ce que tu pourrais même aller jusqu'à dire, sur toute la vie de Record Makers, le truc est un peu toujours là, c'est des hauts, des bas, on n'est jamais complètement tranquille, ou à l'inverse, on arrive à trouver un moment un modèle, et c'est bon, tout va bien, c'est pérenne?
Ah ben non, il ne faut jamais se dire ça. Ouais. Non, il faut bosser tous les jours. Hein. C'est le secret, hein. Faut toujours développer des trucs, avoir des nouvelles idées, rencontrer des nouveaux artistes, créer des connexions, je sais pas, faire de l'événementiel, changer d'activité un peu.
Sur les 10 dernières années, vous avez pu vous inquiéter pour vos finances ?
Non, ça va. En ce moment, ça va. En ce moment, ça va. Et alors, moi, c'est le streaming, en fait, qui est certes très sous-payé, pour parler de Spotify, mais lorsque tu as du catalogue qui est ancien et qui tourne bien, c'est le cas du label, on a quelques références qui tournent bien. Ça génère des droits assez stables, qui sont ce que j'appelle un peu le matelas, quoi. C'est-à-dire que ça permet vraiment de...
C'est une rente.
Une certaine sérénité. Ouais. Ça, c'est bien.
Parce que c'est quoi les ressources d'un label ? Pour l'artiste, on sait à peu près. Mais le label, comment il se paye ? Comment il gagne de l'argent, le label ? Il prend sur quoi ?
Les ventes de disques, les streams... Les ventes de morceaux à des films, à des pubs, les droits...
Et il va partager ça après avec l'artiste, en gros ?
Bien sûr. Okay. Les droits éditoriaux, quand le label est aussi éditeur. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme une source de revenus ? Donc, si jamais, dans certains cas, on peut aussi avoir des droits, de l'argent qui rentre par le live, si on décide d'accompagner l'artiste aussi sur cette activité-là.
Okay.
Bon, c'est pas une activité première pour moi, mais je le fais parfois. Vendre, par exemple, les ventes d'images d'artistes aussi, dans la pub ou dans la mode, ça peut générer des droits et de l'argent.
C'est-à-dire que quand l'artiste, je ne sais pas moi, si Sébastien Tellier se retrouve à faire un shooting pour une marque, lui, il a son management, etc. Mais le label touche quand même quelque chose.
Non, ça dépend de l'arrangement que tu as avec, avec l'artiste, tu vois. D'accord. C'est vraiment du cas par cas. Mmh. En l'occurrence, avec Sébastien, on a fait beaucoup de... Il a fait beaucoup de hors-musique, quoi, en gros, sur lequel je l'accompagnais, et le label touchait un petit pourcentage de ce qui touchait lui. Quoi.
Okay. Très intéressant. Passons à cette partie, Daz, que tu voulais inaugurer.
L'identité.
Sur l'identité d'un label, c'est une très bonne question, je te laisse reprendre peut-être la main.
Oui, bien sûr, car je me rappelle exactement
cette question. Non, pas exactement la question, mais...
Non, oui, je disais qu'un label qui a du succès, forcément, attire... les artistes qui du coup le voient et souhaitent participer à l'aventure, et que du coup la question c'était comment est-ce que on gère les différents égos, puisqu'on sait que c'est quand même un métier d'égo, on va pas se mentir, musicien, musicienne, si t'as pas d'égo c'est compliqué quoi. Comment est-ce qu'on gère l'égo des artistes quand justement on se retrouve à signer à la fois un Sébastien Tellier ou un R, et puis après un Arpanet qui est pas exactement aussi vendable, tu le disais, pour des questions simples de bah, on sait pas qui c'est, voilà. Donc il y a pas d'image, il y a pas de choses comme ça. Comment est-ce que même les est-ce que tu peux avoir par exemple des artistes de ton label qui viennent te voir en te disant qu'est-ce que c'est que ce truc que tu veux signer?
Bien sûr, tout le temps.
Ah, okay. Parce qu'on pourrait ajouter, il y a Sébastien Tellier, il y a Arpanet, ensuite vous allez être rejoint aussi par Visible Boy, Turzi, tu les évoquais, Acid Wash, Damien, enfin il y en a plein.
Du coup, ça veut dire les artistes ont un rôle ou en tout cas un avis à donner sur « ouais, je suis pas sûr qu'on devrait signer ce gars-là ou... ».
En tout cas, ils se privent pas de le donner.
D'accord.
Alors, si tu veux parler d'Arpanet, c'est un truc qui est génial avec Arpanet, c'est que c'est l'artiste que tous les autres artistes adorent.
Ok, d'accord. Donc ça va.
Et parfois, ils l'ont découvert grâce au label,
ouais.
Mais en général, ils sont pas déçus hein, quand ils le découvrent.
D'accord. Mais par contre, tu as dit qu'il y a sur d'autres signatures, ça a peut-être été un petit peu plus discuté.
Ça a pu arriver, oui.
Ouais.
Est-ce que les artistes ont l'impression que ça engage leur propre image aussi
Oui, bah, forcément. Comme c'est petit et qu'on fait un travail artisanal, les frontières entre l'artiste et le label sont poreuses. Et donc forcément, ils ont l'impression d'avoir un peu façonné le label eux-mêmes.
D'avoir un droit de regard du coup sur...
Exactement.
Ouais.
Et alors, c'est délicat ces trucs-là.
Ouais. Ouais, comment on gère ça? Comment on leur dit, c'est pas ton business
C'est pas aussi simple à dire que ça, mais ouais. Oui, il faut le faire comprendre. À un moment, c'est comme ça, quoi. Enfin,
ouais. Mais parce que c'est compliqué, parce que tu parles toi de cultiver aussi une certaine proximité avec les différents artistes, et de partager des trucs et donc quelque part de transcender la simple relation professionnelle dans un truc un peu plus grand et un peu plus personnel. Du coup, c'est peut-être compliqué, effectivement, quand après, t'as un artiste qui, sur le plan personnel, te dit « Tu sais, le dernier que t'as signé, je suis pas sûr. » Comment, du coup, tu te remets dans le rôle du pro en disant...
Soit tu essayes d'argumenter, soit tu essaies de convaincre aussi, ça peut marcher, en faisant écouter certains morceaux, trucs, ouais. Tu vois. Ou alors, sinon, ça peut se finir en « Bah, tu verras.
» Et t'as des gens qui disent « Ok, on verra. »
Bah, en fait, il y a un truc, c'est quand même, généralement... Quand tu as du succès avec un artiste, ça met tout le monde d'accord. Hein. Ça, c'est une des règles.
Donc ça reste. C'est un peu triste aussi de se dire que, quand même, c'est le succès. Parce que le succès se mesure comment? Il y a le succès d'estime et puis tu as le succès dans les bacs, dans les ventes.
Dans les bacs. Elle est belle cette expression.
Ouais,
un peu old school, mais.
Ça existe encore les bacs.
Il y a des bacs. Non, c'est. Tu peux te dire que ce que tu évoquais par exemple avec Virgin notamment et Source, c'est que eux ils voyaient d'abord le chiffre pour qualifier le succès de la musique. Tu te dis si t'es sur une structure plus petite, on va d'abord valider la proposition artistique en disant elle est qualitative même si ça vend pas. Est-ce que ça t'arrives quand même à le défendre auprès de tes propres artistes en mode ok ça a pas vendu mais la musique est bien.
Ouais ça ils respectent beaucoup ça.
D'accord.
Bien sûr. Ouais. Le succès d'estime est très respecté, bien sûr. Okay. C'est un des succès très recherchés, je dirais même.
Ouais, d'accord.
Dans un premier temps, dans les débuts de carrière, souvent, ils sont à la recherche de ça, les artistes, le succès d'estime. Et puis après, quand la vie avance, ils ont besoin de succès économique aussi, de concret, quoi, de moula.
De moula, exactement.
Est-ce que il y a On parle d'identité de label, d'identité d'artiste, comment le, parfois ça peut aussi se confronter, entre guillemets. En tout cas, l'artiste, il se dit, bah, attends, moi j'ai envie d'avoir mon regard sur tout ça. Est-ce que c'est une réalité tangible, l'identité d'un label ? Ce que je veux dire par là, c'est les professionnels et les artistes, ils savent à peu près. Ils disent, bah, je vais devoir collaborer avec eux, quelles sont leurs habitudes, avec qui ils ont travaillé, quelle est la culture du label. Ça, ok. C'est déjà plus flou pour le grand public, je pense. Ou en tout cas, il n'y a pas tant de labels qui peuvent se targuer de dire « Le grand public, il connaît mon label et il sait à quoi s'attendre. »
C'est vrai. Bah, je pense que vos auditeurs, ils le savent. Ouais. Mais ça arrête à peu près là. Je pense. Hein. C'est vrai que le grand public s'en fiche un peu. Et bon, il y a des... Comment dire des... Souvent, les labels les plus connus sont... ils ont une figure de proue. Mmh. Eddie Barclay, par exemple. Barclay, dans les disques Barclay. Quoi. Voilà, c'était un type hyper connu. Qui était même, je pense, connu en
pour
tant que personne.
Que la musique,
ouais. Exactement, et en tant que personne avant qu'on sache qu'il est un label. Ouais. Mais ça a dû beaucoup l'aider, je pense.
D'être enfin là, c'est. Eddie Barclay, ouais, c'est le frontman, mais c'est le patron du label. Normalement, on voit plutôt les artistes qui personnifient le label.
Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que pour que le label soit connu du grand public, généralement, ça passe par une figure de proue, quelqu'un qui l'incarne, en fait. Bah Pedro Winter, Ed Banger, c'est vraiment similaire, quoi. On sent que le succès de ces artistes est pour lui aussi important que son propre succès.
Quand vous montez Record Makers, et puis après, tout au long de sa vie, est-ce qu'il y a une recherche, justement, d'inscrire auprès du grand public, auprès des auditeurs ? Le grand public, peut-être pas, mais en tout cas, les amateurs de musique, disons, en dehors des professionnels, d'inscrire quelque chose, que Record Makers soit visible, que ça signifie quelque chose pour les gens ? On essaie de travailler dans ce sens ou pas ?
Un petit peu, mais je dirais, en fait, le principal intérêt de ça, c'est d'avoir une marque qui puisse générer des propositions pour les artistes. Pour moi, c'est le principal intérêt. Moi, on n'a jamais fait ce label pour qu'il soit connu. Mm-hmm. C'était plus vraiment l'esprit, c'était j'allais dire un mot que je déteste, une maison de qualité. Une maison machin, c'est ouais. l'enfer. Mais voilà, c'était plus ça, c'était le label de qualité, ce qui nous intéressait. En tout cas, moi, c'est ce qui me motive et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, alors que bon, ben, voilà, on peut faire un disque dans une chambre, sur un ordinateur fini, j'ai quand même souvent envie d'aller en studio, de faire ça bien, un peu à l'ancienne, mais parce que si je pense que ça s'entend, y a une différence. Et d'avoir une sorte de confort, un peu d'écoute, que les visuels soient un peu léchés, tout ça, moi ça m'apporte beaucoup.
Et il y a du commun ? C'est-à-dire que les artistes signés sur le label aient leur propre esthétique, leur propre DA, y compris d'un point de vue graphique, visuel. Mais est-ce qu'il doit y avoir aussi des éléments record makers ? Tu vois, qui rappelle ça et...
Ah bah oui, clairement, à un moment, je me suis rendu compte qu'on faisait beaucoup de pochettes sur fond noir, par exemple.
Ok.
Et c'était bon, voilà, il se trouve que moi, j'ai pas imposé. On s'était choisi en commun avec les artistes, mais là, on aimait ça, quoi. Ça fait classe. Mais en fait, il y a, dans le début du label, beaucoup de pochettes sur fond noir.
Mais il n'y avait, pas de DA du label à proprement parler. Il n'y avait pas de...
Non, c'était...
Vraiment, ça se fait comme ça,
oui, voilà,
spontanément, quoi.
Alors souvent, en fait, quand on rencontre un graphiste avec qui on s'entend super bien, et c'est vraiment hyper... ça ressemble beaucoup à la relation... une relation avec un graphiste pour un label, c'est pareil qu'une relation avec un artiste. Mmh. C'est-à-dire qu'on s'entend bien, on balance trois refs, la nana ou le garçon capte tout de suite. Voilà, il n'y a pas besoin d'expliquer plus que ça, on est dans le même état d'esprit. Donc après, on fait une série de pochettes ensemble, et puis ensuite, le graphiste évolue. Donc c'est ça qui donne un peu des périodes, en tout cas pour mon label. Mais il n'y a pas de DA, au sens où il n'y a pas un type qui s'occupe.
Qui a réfléchi à ça, voilà. Ouais, ok.
Après, on a pu le rattraper un peu aussi. Par exemple, à l'origine du label, c'est... Le logo a été créé par Alexandre Courtès, qui est un graphiste brillantissime, maintenant réalisateur aussi. Et c'est lui, bon, personne ne le sait, mais c'est lui qui a dessiné les casques des Daft Punk, par exemple.
D'accord. Ok.
Et ça participe quand même de l'identité du label, un logo par exemple. Ça,
ah oui, ouais. Ah oui quand même. Ouais.
Et ça le mettre sur le disque, ça a du sens pour vous.
Ah ouais. Ouais. Ouais, moi je voulais, c'était en réaction donc à mon expérience chez Virgin, où donc comme je vous disais tout à l'heure, pour moi le fait de créer, de produire des disques, c'était avant tout artisanal comme travail. Et donc le logo de Record Maker, c'est une petite usine entourée d'étoiles. C'était un peu ironique, c'est-à-dire que c'était on vous crée du rêve dans une usine.
Ouais, industrielle.
Ouais, voilà. Ouais. C'est ça l'idée.
Il y a dans cette idée aussi d'identité de label, il pourrait y avoir aussi une esthétique sonore qui serait commune. Où, bon, on l'a vu avec Arpanet, Sébastien Tellier, ça ne marche pas vraiment. Mais par contre, on pourrait se dire que le label, quand il accompagne aussi sur les éléments artistiques, tu nous disais que toi, tu allais en studio, que tu conseillais quand même, tu donnais ton avis, etc. Est-ce qu'il peut y avoir la tentation parfois d'apporter une patte, y compris au son, une patte Record Makers, de modifier l'artistique d'une certaine manière?
Bien sûr. Plus qu'une tentation, une volonté parfois.
Ah ouais.
Mais je me suis aussi toujours méfié, et c'est pour ça qu'on n'a pas créé, ça a été souvent évoqué mais jamais réalisé, on n'a jamais créé le studio du label. Alors qu'il y a beaucoup de labels qui ont leur propre studio et qui ont donc tendance à avoir un son. Ce qui est chouette, hein. Moi, il y a des labels que j'adore pour ça. Mais moi, j'ai jamais voulu ça. J'ai toujours voulu être, comment dire, indépendant de l'air du temps. Et donc, de ne pas en générer, quoi. De pas générer l'air du temps, d'être libre. De pouvoir faire les disques comme on le veut, où on veut, tout le temps. De pas avoir la tentation de tout faire au même endroit. Et donc, finalement...
Oui, parce qu'en plus, d'un point de vue financier, ça aurait peut-être été plus rentable d'avoir son propre studio plutôt que de prendre des sessions.
C'est clair, c'est clair, ouais, c'est clair.
Mais comment quand même alors, parce que tu dis, c'est important quand même d'avoir un peu un son. Si ça passe pas par le studio, comment vous l'assurez? C'est les ingé-sons avec qui vous allez bosser, par exemple?
Par exemple, les réalisateurs et puis le choix des morceaux aussi qu'on met dans les disques, parce que ça, c'est quelque chose qu'on fait vraiment collectivement avec l'artiste. Parce que souvent, les artistes, ils composent plus que ce qui va finir dans le disque à l'arrivée. Ça peut être là aussi, ça peut être dans une sorte d'esthétique. Ça vient plutôt avec le temps, c'est-à-dire qu'à force de se montrer des musiques, on se rapproche artistiquement. L'artiste nous fait écouter ses tracks, ça nous fait penser à d'autres choses, on lui joue, on lui fait écouter les autres productions, et puis petit à petit, ça, tout ceci s'influence mutuellement. Ça peut me jouer aussi.
Ouais, c'est intéressant. Je crois qu'il y a un truc aussi qui participe... de votre identité, c'est le rapport au cinéma, parce que on l'a dit, ça commence avec la BO de Virgin Suicides.
C'était le début, ouais.
Mais ensuite, il va y avoir plein, en fait, d'incursions dans le cinéma. Alors, je pense évidemment à Tellier, qui a bossé sur la BO de Narco à l'époque. Et un peu plus récent aussi, je ne savais pas s'il avait fait la BO de Saint-Amour en 2016 aussi. Il y a évidemment, encore plus récent, Nicolas Godin de R, qui a fait la BO de Fire of Live, qui est un documentaire.
Du coup, dans ce cas-là, ça compte comme un album ou pas?
C'est chez vous d'ailleurs ou pas, Fire of Life?
Non,
non.
Ah non, j'ai pressé le vinyle parce que, en fait, c'est un documentaire sur un couple français d'explorateurs de volcans qui est décédé d'ailleurs en explorant des volcans.
Ah, les Kraft.
Exactement.
Ouais, bien sûr.
Exactement, les Kraft. Ouais. Et donc, il a fait la musique d'un documentaire. Il y a une nana qui est tombée. En fait, les Kraft se filmaient de manière hyper esthétique. Et il y a une réalisatrice canadienne qui est tombée sur je crois, en voyant un documentaire de Werner Herzog. Elle est tombée sur ces images qui l'ont saisie. Elle est allée à la source. Elle les a retrouvées. Elle a retrouvé la famille. Donc, bref, elle en a fait un film. Et il a fait la musique. Et comme c'était nommé aux Oscars, il fallait à tout prix un vinyle. Donc, moi, j'avais la solution parce qu'on fait des vinyles tout le temps chez Record Makers. Je dis, c'était la première fois qu'on refaisait un disque ensemble, dans le sens, parce qu'il était ancien du label, il était associé du label au début, Nicolas Godin, et ça s'est fini en 2004. Et donc là, on a repressé un disque ensemble, c'était sympa.
C'est rigolo. Et dans cette idée aussi de... Bon, on va s'arrêter quand même, parce que l'histoire est folle, et que le tube est phénoménal, et qu'encore, il n'y a pas longtemps, il était à la mode, entre guillemets. C'est avec Kavinsky, évidemment, pour Drive.
Pourquoi il était à la mode? Il est plus à la mode?
Non, ce que je veux dire, c'est qu'avec les JO, il y a eu une nouvelle version, etc.
Ah, oui.
Ça, je voulais dire.
Ah, avec Angèle.
Ouais, exactement.
Ouais,
okay. C'est chez vous d'ailleurs, ça, que ça sort. Si je dis pas de...
Alors, c'est une coproduction entre quatre entités.
Ah, dont vous?
Oui.
C'est bon, je suis pas complètement à la ramasse. faut que tu racontes ce truc parce que Kavinsky, d'ailleurs, comment vous commencez à bosser avec lui?
Toujours la même source. En fait, donc le premier album de Sébastien, il y a un morceau qui s'appelle Au malheur, je suis au malais, je crois. C'est ça qu'il a clippé, Quentin Dupieux. Il est parti clipper à Marseille. C'est une espèce de clip absurde où Tellier essaye de faire du skate dans la forêt. Il n'y arrive pas vraiment parce que bon, du skate dans la forêt, ouais, pratique, bonne chance. Il y a une espèce de jogger étrange, tout habillé de blanc, et ce qui s'appelait à l'époque, enfin qui s'appelle toujours Vincent Bellorget, et le futur Kavinsky. C'est là que j'ai rencontré. Mais à l'époque, il n'était pas musicien. Okay. Il était comédien. Et on est devenus potes, et de fil en aiguille. Et un jour, il a récupéré l'ancien matériel de Quentin Dupieux, qui lui changeait de setup. Voilà, il lui dit, tiens, je te file mon Mac Mini, et je ne sais plus ce qu'il avait avec. Il s'est mis à faire de la musique comme ça. Et puis, il m'invite à dîner, il me fait écouter. Je dis, ouais, il y a un truc. Puis, de fil en aiguille, il m'a sorti un morceau qui s'appelait Testarossa. Mmh. Et là, on en a fait un disque. Voilà, ça c'était il y a très longtemps.
Ouais. On est quoi? Ouais, c'est dans les années 2000, ça?
Ouais, début 2000, 2004, 5, je sais pas. J'ai oublié.
On peut s'écouter Testarossa d'ailleurs. Et donc, vous le sortez ensemble?
Ouais.
Alors, il y a un truc que je capte tout de suite avec Kavinsky, Record Makers, qui fait sens grâce à nos discussions, c'est le personnage.
Ah oui.
Là, il y a un personnage.
Un sacré personnage.
Ouais.
Mmh, tout à fait. Ben, c'est comme ça qu'on est devenus amis au début, parce qu'il m'amusait beaucoup. En fait, c'est quelqu'un de très très drôle, qui ose tout. Donc, lâché dans une petite assemblée, il peut vraiment. Moi, je l'ai déjà vu faire, retourner. Il arrive dans un dîner ou une soirée où il y a une vingtaine de personnes, 40 personnes. Il connaît personne. Il finit par faire un one-man show et tout le monde est tourné vers lui et est mort de rire. Donc, c'est ça, au début, c'est comme ça qu'on s'est vraiment rencontrés. On se marrait ensemble et puis, donc, comme je le disais, il s'est mis à faire de la musique et donc ça m'a touché au début et après, avec ce morceau, convaincu d'en faire un disque. Et puis, je lui ai obtenu un remix d'Arpanet. Il était méga fan d'Arpanet, donc il était comme un dingue. Oiseau, c'était son pote d'adolescence, donc il lui a fait un remix aussi. Voilà, c'est parti comme ça.
Et en plus, ça devient un personnage aussi artistique, c'est-à-dire qu'il se crée un alter ego musical. Qui est pareil qu'on peut exploiter aussi, j'imagine, en tant que label.
Ah bah, dès le début, il a décrété une histoire de zombie décédé dans un accident de Testarossa en 1986. C'était hyper précis.
C'est marrant. Le mec, il a débarqué avec son idée comme ça, précise.
Ouais. C'était hyper précis. Pour l'illustrateur qui a fait les artworks, c'était génial. Parce qu'il y avait. On avait trouvé un illustrateur génial qui avait les mêmes rêves que lui. Il a tout de suite capté. Il a tapé dans le mille assez vite. Et on a développé autour de ça. C'était la trame narrative de Kavinsky dès le début. Et ça le reste encore aujourd'hui.
Et ce qui est fou, c'est que derrière, il y a un album en 2010, Night Call, lequel il y a donc le morceau du même nom, Night Call.
Non, l'album ne s'appelle pas Night Call. Hein.
Ah, pardon, j'ai une bêtise, excuse-moi. Ben, c'est marrant, il est nommé comme ça sur Spotify.
Ah, c'est le EP, ça, je pense. Ah, il y a eu d'abord un EP Night Call.
Ah, ça doit être ça, où il n'y a que 7 titres, t'as raison.
Dans l'ordre, t'as eu le EP Night Call, la synchro, l'utilisation dans le film, et après l'album.
Et alors, ben justement, il faut qu'on en parle, parce que quand ça sort sur l'EP, alors, pardon, excuse-moi, ça prend pas.
Ça prend douille. C'est-à-dire qu'on a, quelques...
Sur Outrun.
Outrun, voilà. Ouais. On a quelques... On a quand même pas mal de gens qui nous disent « Ouais, super ce morceau, Night Call et tout. » Moi, j'étais pote avec un type assez doué, un attaché de presse assez doué. Je lui dis « Vas-y, va voir les radios. » J'y croyais vraiment. Il va voir les radios. Les radios lui disent « C'est trop lent, c'est une balade, ça marchera jamais. Enfin, » bon.
Comme d'hab, quoi.
Comme d'hab, on avait pressé des tas de vinyles, on en avait, les invendus nous sont arrivés, on en avait jusqu'au plafond dans le bureau chez Record Makers, mais quand t'as trop de un surstock par ton distributeur, il te file deux options. Soit je te les renvoie, tu les gardes, soit je te les détruis. Donc on les détruit pas. On sentait qu'il y avait un truc, quoi. Et donc on avait des piles de disques pendant des mois au label. Et puis un beau jour, bon, il y a la prod de Winding Refn, le réalisateur de Drive, qui nous contacte. Écoute, Pau, lui et moi, on était méga fans. On connaissait déjà. En fait, il a fait une trilogie. Je ne sais pas si vous connaissez Pusher.
Voilà. Bien sûr.
Pusher. Classique absolu pour nous, enfin pour Kaminsky et moi, c'était des films incontournables. Et donc, on a vu arriver sa proposition. C'était un mail, hein, avec une petite somme. C'était pas BZF ce qu'il proposait, mais on s'est dit, ça, il faut qu'on en soit. C'est obligé d'être dans le prochain film de ce type-là. On ne savait pas de quoi ça parlait, on ne savait rien en fait. Et voilà.
C'est toujours pas d'ailleurs. Ouais. Ça parle en fait. Hein. Mais bon.
Ouais, c'est un mec quoi, il a un manteau, il a une veste.
Ça conduit quoi, ça conduit.
Ok.
Et d'ailleurs, c'est ce que tu dis avec une petite somme, rien d'extraordinaire, c'est un fixe, c'est tout ?
Oui, c'est ça, c'est comme ça que ça marche en général. C'est qu'on te dit, est-ce que je peux utiliser ton morceau dans mon film ?
Et paye le droit, les droits.
Le droit master, le droit édition.
Et c'est tout.
Voilà.
Il n'y a pas de recette après sur les entrées.
Le site du film ou pas.
Ouais. C'est pour ça que quand je vois des films français qui se payent un Earthwind and Fire, je me dis, oula, ils ont dû bien casser leur tirelire. Quoi, parce que ça, les Earthwind and Fire, ils savent que. Enfin, les ayants droit, parce que maintenant, ça doit être ça. Ils savent que quand ils mettent un morceau dans un film, ça amène un truc un peu lourd. Donc, donc le prix doit être.
Conséquence.
Aligné avec ça. Quoi.
Je conseille, j'ai plus les détails, mais je conseille un article chez BFM, je crois, de Jérôme Lachasse, en rapport avec la sortie de L'amour ouf récemment de Gilles Lelouch, où il y a une utilisation de la musique énorme. En gros, ça enchaîne les tubes dans le film, sans cesse. Du The Cure, etc. Enfin, bref, du Prince et tout, que
pas,
des trucs énormes.
Pas de jugement, bien sûr.
On peut parler du film qui est à la fois réussi et raté. Enfin, il est bizarre ce film. Il est raté, mais intéressant, disons.
Ah ouais?
Ouais, je trouve. Enfin, c'est mon avis perso. Hein. Bref.
Ok.
Parce qu'il en fait trop, en fait. Il veut faire 3000 trucs.
Ben hein. Oui.
Adolescent, c'est excité et qui fait plein de trucs. Oui. Alors, calme tes ardeurs, mon gars. Bref. Je sais pas si tu l'as vu.
J'ai pas vu.
Ok.
Le gars qui a dit, c'est 3 heures de. Regarde ce que tu me fais faire, Sandrine. Voilà, voilà. Là, franchement, j'ai trouvé le résumé, mais incroyable, ultra précis, tu vois. Franchement, c'est.
En tout cas, il a.
Musicalement, c'est joli, ok.
Il y a un budget. Qui est quasi inédit dans le cinéma français pour la musique, qui est. C'est pas le million, mais c'est des centaines de milliers d'euros juste pour la musique dans le film. Et donc, dans cet article, vous cherchez L'amour ouf, musique coup, Jérôme Lachat, etc. Ils évoquent le business qu'il y a autour de ça, et c'est assez intéressant. Notamment, ils parlent de The Batman, la dernière itération là, au cinéma de Batman, où il y a un morceau de Nirvana, et où la somme est complètement hallucinante. Je crois que c'est le million, justement.
Ah, il a réussi à avoir les sommes ?
Ouais.
Wow, intéressant.
Ah ouais. Donc ouais, l'article est très intéressant.
C'est normal parce que bon, je n'ai pas vu ce film non plus, ouais. Mais Nirvana, ça amène une forte personnalité. C'est quasiment un acteur du film.
Ouais.
Le morceau, il y a le moment où il y a le morceau, c'est normal que ça soit vendu cher. Moi, je comprends complètement.
Parce que est-ce que oui, mais si, en fait, c'est bilatéral. C'est-à-dire que le fait de le voir dans le film, il y a des gens qui, du coup, sont partis streamer du Nirvana, ou en tout cas, dans le cas de Kavinsky,
peut-être aussi, ouais.
Ça a permis à Kavinsky de...
C'est pour ça, ce que je disais, c'est que la somme, on ne l'a pas négociée. Quand ils ont proposé, c'était une somme raisonnable, on n'a pas négocié, et on a bien fait, parce que derrière, ça nous a apporté une exposition géniale.
Ouais.
Et quand on voyait le film, peut-être vous l'avez vu,
oui,
on a vraiment l'impression que le morceau était composé pour le film, alors que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas du tout.
Je précise d'ailleurs, le budget musique de L'amour ouf, c'est 750 000 euros.
C'est pas mal.
Ce qui est énorme. Et le morceau de Nirvana pour apparaître
dans
The Batman, je crois que c'est 5 millions même. Enfin, c'est un truc complètement hallucinant.
C'est colossal.
Je vais essayer de retrouver exactement pour pas dire de bêtises quand même. Oui, c'est ça. Pour The Batman, 5 millions.
Vous devriez inviter celui qui a fait
l'article.
Qui a produit la musique de L'amour ouf. Je le connais bien.
Ah oui.
Ouais.
Ah ben voilà.
Si vous voulez, son 06.
Eh ben écoute, on en parlera.
On parlera pas du film du coup, mais on restera.
Non mais le film, j'ai dit. Film raté, mais intéressant, c'est quand même pas mal déjà.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Bref, ce qui est dingue, c'est que le film va quand même mettre en valeur le morceau pour vous.
Ah bah là, clairement, oui. Là, oui.
Ouais.
Ouais. Là, ça, on va dire que ça sauve le morceau, parce que tout d'un coup, c'est, ça s'est complètement inversé. Là, les piles de disques ont fondu, on s'est mis à vendre... Et Maxi Kavinsky, ça l'a réveillé parce que je lui réclamais un album depuis le début. Bon, il était un peu, il y allait à tâtons, on va dire.
Donc c'est après qu'il a fait du coup l'album Outrun.
Voilà, tout d'un coup, il a compris que c'était, il fallait qu'il fasse son album là. C'était,
Outrun, c'était le moment. T'as capté la rêve toi ou pas?
Bah c'est encore un peu un truc de bagnole, non? C'est un jeu vidéo déjà pour
avec
Outrun.
Quoi comme voiture dedans?
Je sais pas.
Une Testarossa.
Ah ouais.
Tout est cohérent.
Oh là là. Il avait pensé
et
à
qui
tout.
En plus, je pense, Outrun est sorti en 86 pour de
oh,
vrai.
Non. Ça, ce serait vraiment fou.
Non, mais c'est vrai.
C'est qu'il a vraiment pensé à tout.
Ah, non, mais son univers est.
Il a l'air d'être un bon nerd quand même. Hein, donc
ouais, c'est un bon nerd. Il est très très précis. Ouais. Ouais. Très précis dans ses références.
Ça va. Parce que du coup, quand on, les... quand on a les refs aussi, on est content. On se dit ah, chouette. Mmh. Ok.
Mmh. Il a respecté.
Est-ce que. Bon, d'ailleurs, Nightcall, je mets quand même un petit bah, extrait. Tout le monde connaît, mais
histoire
pareil.
Vraiment de faire striker la vidéo.
Ouais. Sauf si c'était mort, Daz. Marc, est-ce que c'est l'un des plus gros tubes du label?
Ah, si clairement le plus gros.
C'est le plus gros.
Oui.
Ok.
Plus que Virgin Suicide, plus que La Ritournelle.
Ouais, ouais.
Mais genre, c'est genre 10 fois plus que le reste?
C'est ah oui, c'est loin devant.
Ah ouais.
Ouais, ouais. Non, c'est inouï, c'est un vrai tube. Hein. Ça va rester. Hein.
C'est ça qui est incroyable aussi, c'est que. Est-ce que quelque part, on se dit pas. Mais quel monde de merde quand on sait que le morceau, on y croyait, que les piles de disques s'entassaient jusqu'au plafond et que juste parce qu'il a été featuré dans un film avec deux acteurs un peu autistes, du coup, paf, parce que ça reste une romance entre des gens qui parlent pas trop, ça change de l'amour ouf, du coup. Est-ce qu'on se dit pas, quelle bande de cons?
Non, parce qu'au contraire, c'était pas évident de le faire passer dans le grand public, ce morceau, parce qu'il était lent, parce que c'est une balade. Moi, c'est une chanson d'amour magnifique.
Ouais, mais quand on voit qui a mis les mains dans ce morceau, c'est quand même pensé. Enfin, on se dit, ça peut que réussir. Tu peux nous rappeler ça, qui bosse sur ce morceau?
Ah, on le sait pas assez, c'est Guy-Manuel de Homem-Christo qui a produit ce morceau. En fait,
Daft Punk.
Ok.
En fait, l'histoire, c'est que Kavinsky a été choisi par les Daft Punk pour ouvrir leur dernière tournée. Donc la tournée de la pyramide, il y avait en première partie Kavinsky et Sébastien qui faisaient les DJ. Mmh. Donc ils ont parcouru le monde, c'est un peu la même histoire que Tellier R que je racontais plus tôt. Et forcément, bah, ils se connaissaient pas. Hein. C'était vraiment les Daft Punk les ont choisis parce qu'ils aimaient leur musique et ça s'est fait comme ça. Et ils sont devenus très proches à force de tourner et notamment comme il y a beaucoup de temps mort dans une tournée. Guy-Man, comme on l'appelle, et Kavinsky discutaient beaucoup du concept de Kavinsky. Il était très intrigué, Guy-Man, par justement cette espèce d'histoire de zombies et tout. Mmh. Et ils ont conceptualisé, sans l'enregistrer, cette chanson. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ça serait génial de faire une chanson où le zombie rappelle son amoureuse de avant le crash.
D'accord.
Et donc, Nightcall, c'est ça, en fait. Donc, le bruit de la cabine téléphonique, c'est le zombie. Après, qui rappelle sa meuf d'avant, qui a rangé des voitures, qui s'est marié, qui a voilà, un nouveau gars et tout, mais il l'appelle, c'est hyper romantique en fait comme morceau. C'est ça l'histoire du morceau.
Romantico-cripo quand même, mais.
Un peu, ouais.
Mais c'est cool.
Et donc, quand même une histoire d'amour quoi.
Donc produit par Guy-Man, mais c'est pas le seul qui bosse sur ce morceau.
Non, mais c'est vraiment Guy-Man qui a tiré les ficelles de ce morceau. Après, il y a eu une petite contribution. Il y a Sébastien qui a mixé, il y a Tellier qui a fait les chœurs. Et
on raconte même que Thomas Bangalter a peut-être
a placé le loup.
Ah, c'est lui qui a mis le loup au début là.
Ils ont fait ça au studio des Daft Punk à Gang. Les Daft Punk à l'époque étaient installés dans le plus beau studio parisien qui s'appelle le studio Gang à Austerlitz. Et il paraît, moi j'étais pas là, mais que Thomas Bangalter un matin s'est dit tiens, je vais leur faire une petite proposition. Et donc il a ouvert la séance, il a placé un petit son de loup qui est resté.
Oui, donc ça reste quand même un titre de All-Star, quoi. Ouais,
en théorie.
C'est-à-dire que t'as ça, et après tu vois les piles de disques jusqu'au plafond. Là, vraiment, si tu te dis pas, mais les gens sont des connards, je comprends pas comment, tu vois.
Ouais. Ah ouais, c'est... Ah, on était un peu amer à l'époque.
Ah bah ouais, je comprends. Ouais.
Je te l'accorde. Mais bon, voilà, maintenant, après, tout s'est arrangé. Et...
Oui, tu m'étais... Oui, c'est bien arrangé, oui.
Mais même la cabine téléphonique, le son, au début, on l'entend faire son numéro de téléphone. Ça, Kavinsky me l'avait décrit. On arrive au mastering, le son n'y était pas. Okay. J'ai dit, non mais attends, ton idée là, ton concept, ce qui fait qu'on est dans un film, c'est parce qu'il y a ce son de cabine téléphonique. Donc là, j'appelle un pote qui bosse dans la pub, qui fait des bandes-son de films publicitaires toute la journée. Et j'avais déjà été dans son studio et il avait des CD de sound design. Il était cerné de ça. Je lui ai dit, vas-y, sors-moi le meilleur son de cabine téléphonique. On met le mastering en pause. Bam, on l'a placé comme ça à l'arrache à la dernière minute. Et heureusement. Donc ouais, c'était un travail collectif. Même Love Fox, en fait, là, qui fait le refrain.
Ouais, la chanteuse.
On avait le morceau un an et demi avant, en version instrumentale. Il y avait les couplets chantés par la voix un peu robotique, là. Et on n'avait pas la nana du refrain. On avait spoté Love Fox, donc c'était la chanteuse d'un groupe brésilien qui s'appelait CSS, qui est toujours en activité d'ailleurs. D'accord. Elle avait une bonne hype à l'époque, et donc elle sortait avec un anglais qui était musicien aussi. Bref, elle n'avait pas le temps de nous consacrer. Mais elle avait quand même montré de l'intérêt. Et donc le morceau est resté dans un disque dur pendant un an et demi sans qu'il se passe rien. Et j'accompagne Sébastien Tellier au Brésil, il était invité à jouer au Brésil. On arrive à São Paulo, on nous invite au restaurant, on sort fumer une cigarette. Une nana sort d'un taxi, elle se pointe devant lui, elle dit « T'es Sébastien Tellier toi ?» Moi je la regarde, je dis « T'es Love Fox ?» Le coup de peau, je venais d'arriver la première fois de ma vie au Brésil. Première journée, je croise Love Fox, là j'ai pu lâcher. Là, j'ai pris son numéro de direct, j'ai dit « Tu te souviens, Kevin Skitz ?»« Oh, ok, je vais le faire. » Ça s'est fait comme ça, quoi. C'était vraiment un travail collectif, Nightcall.
Tu disais, d'ailleurs, si je reconnecte un peu à ce dont on parlait d'un point de vue financier, économique, pour le label, je disais « Ces 10 dernières années », tu disais « Non, ça va, c'est un peu pérennisé, en grosse partie grâce à Nightcall. »
Nightcall et Kavinsky en général, et Larry Tournel, et Sexuality de Sébastien Tellier, et il y a beaucoup de références, enfin beaucoup. À notre échelle, nous, on a une toute petite structure. Mais il y a quelques références quoi, qui tournent bien.
Les tubes, ça fait vivre un label ?
Ouais, clairement. Depuis le streaming. Ouais. Avant, les gens, ils achetaient un best-of et puis ils l'écoutaient en boucle chez eux. Maintenant, le best-of, à chaque fois qu'ils écoutent, ça te génère des droits. Donc, un tube, ça nous échappe complètement. Quoi.
On parlait de record makers et de cinéma. Il y a aussi un truc, et là c'est intéressant parce que dans votre identité, nous on revient au truc économique machin, mais il y a aussi un truc de passionné, c'est-à-dire que quand vous ressortez la BO d'Assaut de Carpenter,
j'espère que t'en parlerais.
Ouais,
grosse fierté.
Raconte cette histoire, vas-y.
C'était un type excellent et qui travaille plus au label, mais avec qui je suis encore très ami, qui s'appelle Sinclair Godon, un type génial. Et un matin, il était jeune à l'époque, je l'avais flairé un jour, il était venu dans mon bureau, il avait fait des remarques sur un disque de Doppler Effect que je jouais. Je m'étais dit tout de suite, oula, lui là, on va s'entendre. Donc je l'avais engagé comme DA, mais il connaissait pas le métier. Il avait fait l'école Boulle.
C'est quoi l'école Boulle ?
C'est une école pour faire de la
graphisme,
de la sculpture, du graphisme. Enfin, lui faisait la sculpture. Okay. Mais il supportait pas l'ambiance, il était parti en cours d'année. Donc là, je lui dis, viens faire un stage. Et puis bon, bref, de fil en aiguille, il est devenu le DA de Record Makers au début du label. Et. Donc un matin il arrive, il me dit waouh, j'ai vu un film hier là, j'ai loué au Vidéo Club, hein, parce que c'était notre époque. C'est incroyable, la musique est incroyable, ça s'appelle Assaut, John Carpenter, c'est franc. Donc je lui dis ouais, ok, vas-y, montre, fais écouter. Enfin, il se débrouille pour trouver le son, et en fait c'était introuvable, mais grâce à des amis nerds à lui qui avaient, je crois, une boutique de disques à Toulouse, ils avaient réussi à isoler la piste son du laserdisc. Donc on avait le son, mais il y avait quand même un peu d'ambiance du film dedans, mais bon, ça m'a permis d'écouter. Et en effet, c'était hyper fondateur, en fait, comme disque. Il y avait une sorte de minimalisme électronique avec énormément de grains. Enfin, c'était très séduisant. Après, je me suis débrouillé pour voir le film. C'était difficile à cette époque-là, hein, de voir des films comme ça, un peu oubliés, rares.
Parce que je crois que c'est le deuxième film de Carpenter, un truc comme ça. Enfin, c'est
un peu plus, mais
en tout cas, tôt dans sa carrière. Ouais. Il n'a pas encore le succès d'estime qu'il va connaître derrière.
Complètement,
et tout,
ouais. Et c'est un peu avant son New York 97, par exemple, qui était un peu son... Et donc on se met en tête de sortir cette BO pour la première fois, parce qu'elle n'était jamais sortie.
Parce que Carpenter fait lui-même la plupart de ses BO. Il y en a plein qui sont sortis, qui sont disponibles dans le commerce.
Celle-là, jamais. Et donc, lorsqu'on a réussi à le contacter, il nous a dit, mais vous êtes sûr que vous voulez sortir ça ? Il y a 17 minutes de musique, c'est hyper répétitif. On a dit, ouais, on est sûr. Et donc, finalement, on a réussi à l'embarquer avec nous. On était parti pour masteriser donc, cette piste de laserdisc isolée, finalement, grâce au producteur que j'ai retrouvé de l'époque du film, il nous a isolé la musique digitalement, on va dire, dans un studio à Los Angeles. Donc on a eu un master qu'on a chéri, on a fait un mastering aux petits oignons et tout ça, et maintenant d'ailleurs on a plus les droits, mais il est réédité régulièrement, les types à chaque fois ils repartent de notre master, ils s'embêtent plus, on a déterré la pépite quoi. Et voilà, et après lui là, il a fait des notes de pochette pour le vinyle.
Carpenter, lui.
Ouais, il a participé à la sortie. Et malheureusement, moi je voulais qu'il tourne en fait, qu'il joue sa BO et d'autres. À l'époque, il avait très peur de prendre l'avion, et donc il a refusé Mordicus. Et 15 ans après, il a monté un groupe avec son fils et des musiciens, et il a fait une tournée que j'ai vue, ils sont passés au Rex à Paris, c'était magnifique. Il jouait ses musiques de films avec des extraits des films derrière, c'était genre simplissime, mais c'était genre la classe absolue. Mmh. Voilà l'histoire.
D'ailleurs, elle n'est pas disponible sur Spotify, la BO.
Asso ?
Ouais. Alors on trouve le morceau principal dans une anthologie, mais il n'y a pas la BO.
Je ne sais pas où ils en sont. Moi, j'ai plus les droits. C'était vraiment. On parlait de licence. Là, c'était vraiment une licence. C'est-à-dire que j'ai eu une licence pendant un certain temps. Ouais. Et après, au bout d'un moment, on a arrêté de l'exploiter parce qu'on n'avait plus les droits. Et ensuite, c'est parti pendant un temps sur le label de Jeff Barrow de Portishead. Okay. Invada, je crois, il s'appelle le label, qui faisait beaucoup de soundtrack. Et là, je ne sais pas où c'est maintenant.
En tout cas, on peut s'écouter le thème principal. Lui, par contre, est sur Spotify. Comment faut dire Precinct 13 ?
Assaut sur le central 13,
c'est ça. Ouais.
Allez, on s'écoute ça. John Carpenter. Merde.
Non, c'est pas grave. Je pense qu'il s'est réenregistré, justement pour contourner cette histoire de droit. Là, à l'oreille, je reconnais, c'est pas le master.
Et ben, on doit pouvoir le trouver sur YouTube. Les gens qui veulent l'original.
YouTube, t'as tout. Ouais.
YouTube, il y a tout ce qu'il faut. J'imagine que quand on fait un truc comme ça, on s'attend pas non plus à un succès phénoménal. On est fier de l'avoir fait et c'est pour avoir un beau catalogue.
C'était quand même un disque.
Ah ouais.
Le vinyle, c'est bien vendu. Hein. C'est bien vendu. On a vraiment comblé un vide. On sentait qu'il y avait des gens qui attendaient ça depuis longtemps. Et
okay. C'est bizarre.
Il y avait beaucoup d'histoires en France de gens qui avaient vu le film sur la 5. Quand c'était Berlusconi, là, diffusait un peu des nanars pendant la journée. Et énormément de gens, en fait, de ma génération, qui ont découvert des films comme ça. Je me souviens notamment d'un message de Laurent Garnier, de Miss Kittine, de gens comme ça, qui disaient merci d'avoir sorti ce disque, ça faisait tellement longtemps que je l'attendais. Donc on l'a pas fait pour rien, quoi.
C'est bizarre que personne ait eu l'idée. Parce que, Carpenter, il y a quand même un truc où.
Il est reconnu aujourd'hui, notamment pour ses BO.
Mais c'est séminal de ouf quand t'entends justement Asso ou New York 1997 et qu'après tu vois toute la vague du jeu vidéo, notamment les studios anglais genre Psygnosis et compagnie sur Amiga qui te sortaient des trucs avec des BO de l'espace comme ça, où c'est littéralement du Carpenter.
Il y a Halloween, Fog, etc. Enfin, il y a tellement.
Énormément de trucs qui. Enfin, c'est fondateur pour beaucoup.
Hyper fondateur. Ouais. Moi, je remercie Sinclair Godon, dont je parlais tout à l'heure. C'est lui qui m'a fait découvrir. Et maintenant, je suis un énorme fan de Carpenter et aussi du cinéaste parce qu'il a fait des films incroyables. They Live notamment, je sais pas.
Oui, bien sûr.
Celui avec les lunettes de soleil. Là.
Moi, j'ai un gros faible. C'est pas le préféré des gens en général, mais j'adore In the Mouth of Madness, l'entre de la folie.
Ah, j'ai pas vu celui-là.
Qui s'inspire beaucoup de Lovecraft.
Qui est ultra cool. Ah, les films malaisants. L'amour ouf.
C'est marrant que tu parles de cette histoire de licence, parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas précisé, c'est que sur Drive, évidemment, Night Call, ça sort chez vous, c'est un morceau fait avec Kavinsky de votre label, mais vous allez exploiter la licence de la musique du film, d'ailleurs, parce que personne ne la faisait, c'est ça ? Il y a une histoire comme ça ?
C'est vrai. En fait, lorsque le film a été projeté à Cannes, nous, on n'y était pas, mais Kavinsky a reçu un coup de fil de Gaspard Noé, qui était à la projection, qui lui a dit « Waouh, c'est incroyable, ton morceau dans le film, il est trop bien placé, c'est génial, on dirait que ça a été fait exprès, etc. Bon, » Donc ça a titillé notre curiosité, donc on s'est débrouillé. Souvent après Cannes, il y a des projections à Paris pour ceux qui n'ont pas pu y aller. On s'est débrouillé pour aller à une projection. Et là, on a compris l'ampleur du truc. C'était génial. Super moment, d'ailleurs. Et ensuite, on s'est renseigné. Qui sort la BO ? Personne. Personne intéressé. Donc là, on a pris la licence et on l'a fait.
Tu te rends compte, l'aubaine Parce que j'imagine qu'après, ça a été un succès, cette BO.
Ça cartonnait. Les gens, ils sortaient du film, ils avaient qu'une hâte, c'était d'écouter la musique. Donc c'était un carton.
Et c'était un mélange de... Parce que moi, j'avoue, j'ai jamais écouté l'album de la BO. C'est un mélange des musiques originales de Cliff Martinez avec les quelques morceaux de genre Nightcall qui sont aussi dedans et tout.
Il y a juste un morceau de Kavinsky. Okay. On va dire le grand public a l'impression que c'est lui qui a fait la musique du film, mais en fait, il y a que Nightcall.
Il y a Collège aussi.
Il y a du Chromatics aussi, un morceau génial qui s'appelle Tick of the Clock. Okay. On entend une horloge. C'est la scène du début du film. Et je sais plus quels sont les autres morceaux. Beaucoup de scores de Cliff Martinez.
Il y a le score de Cliff Martinez aussi, ouais. Quand même dessus.
Okay. Ancien batteur de Red Hot Chili Peppers, quand même, Cliff Martinez.
Ah ouais? Je savais pas, j'avais jamais fait le lien, la connexion directe.
Ouais. Et donc, il y a personne qui avait eu l'idée de sortir cette BO.
En fait. Mais en France, non. Non. On l'a sorti pour la France. Mais personne n'avait. Okay. Non, ouais. C'était une aubaine.
Après, Drive, c'était aussi. Enfin, c'est un film indé, quoi.
C'est vrai que on s'attend pas à tel succès, c'est vrai, tu as raison.
Il avait fait Pusher 1 qui avait marché, mais au Danemark, principalement, son pays d'origine. Et c'était encore un cinéaste underground, hein, Nicolas Winding-Refn. Donc ceux qui avaient vu les films savaient qu'il pesait, mais sinon, il y avait peu de gens qui l'avaient vu. Et là, tout à coup, Drive,
ouais, ça explose.
Tout le monde le voit, quoi.
On était dans la partie là un peu sur l'identité du label aussi. On comprend que le lien avec le cinéma, voilà, il est récurrent. On le retrouve encore jusqu'à peu, on disait avec vous avez pressé les vinyles pour la BO de Nicolas Godin, pour le documentaire. Ça, c'est un truc qui a réussi, entre guillemets. Il y a un truc, par contre, que vous avez abandonné. Alors, on ne peut pas parler d'échec, mais j'évoquais en intro le fait que vous sortez des EP, puis après l'album Vive la vie de Club des Losers. Il y avait eu aussi une tentative rap avec DSL, c'est ça? Bon, ça, vous ne l'avez pas réitéré, par exemple, de se dire, bon, on va s'attaquer à une autre esthétique qui nous est un peu peut-être étrangère, avec des codes très spécifiques. C'est peut-être pas pour nous. Je sais pas si c'est. Enfin, là, tu vois, j'imagine. C'est ça ou.
Alors, dans le cas de DSL, qui. Est-ce qu'il précédait Club des Losers? Je ne me souviens plus. Dans le cas de DSL, en tout cas, je me souviens clairement, c'est eux qui ont voulu partir. Et pour Club des Losers, on va dire que c'est une. Différence de vision, peut-être. Au bout d'un moment, qui nous a séparés. Mais j'étais hyper content d'avoir sorti son premier disque et un EP avant. Et voilà, je trouvais qu'on avait, on avait dit ce qu'il fallait en le faisant ensemble. Et après, il a évolué, continué à évoluer. Et là, on vient de represser. C'est un disque qui se vend toujours en vinyle. On vient de le represser.
Il est culte.
Il est culte, voilà. Là, c'est les 25 ans actuellement. On vient de le represser. On l'annonce demain. Okay, ah pardon, ça sert à rien.
Quand cette émission sortira.
Oui, voilà. Ça sera déjà sorti, mais justement, les gens peuvent foncer pour le prendre. Mais il y avait déjà eu une réédition pour les 20 ans, non, ou je dis une bêtise?
Oui, on le réédite régulièrement. Ouais, régulièrement, il est réédité.
C'est vrai que c'est aussi un rap qu'on qualifiait d'alternatif.
Absolument, à l'époque.
C'était pas du tout dans les esthétiques habituelles.
Ah, pas du tout.
Et puis si on veut être un peu dans le cliché, c'est le rap de Versailles. C'est-à-dire que ça fait un peu sens, mine de rien, avec l'Ouest parisien, vous, quoi.
C'était dingue, quoi. Enfin, moi, c'est le même Sinclair qui l'a trouvé. J'hallucinais quand j'ai entendu ce truc-là. C'était fou. Ouais. Très bonne plume, Club des Losers. Il écrit bien.
Moi, c'est Fusati. C'est beaucoup de gens... On va s'écouter un extrait. Beaucoup de gens le méprisait presque parce qu'en fait il a un flow très particulier, une voix très particulière, etc. Mais cet album, moi je l'avoue, je l'ai poncé. Et y a des punchlines absolument mythiques dedans. Mais même d'ailleurs, même les mecs du rap, tu vois, genre l'ABCDR par exemple, je suis tombé sur des reviews de l'album, l'ABCDR qui aime le rap, on peut pas dire le contraire. Ils ont été séduits de ouf par plein de punchlines parce que le mec est un génie pour ça.
Après, ça posait plein de questions sur d'ordre social, voire sociétal.
Ouais, mais lui, tu sais quoi, il précède. Parce qu'en fait, c'est un ovni à l'époque.
Ah, bien sûr.
C'est-à-dire que lorsqu'il y a une véritable gentrification qui s'opère avec plein de gens et qui font beaucoup d'argent autour de ça, là, tu peux commencer à te questionner sur est-ce qu'on pille notre culture, entre guillemets, ou des gens se dire c'est notre culture et je suis un peu embêté. Pourquoi pas? Je suis prêt à en discuter de ça. Mais là, en l'occurrence, à ce moment-là...
Il y avait déjà TTC à l'époque.
Exactement. Mais et ça peut être certains succès, mais c'est tellement... Pas anecdotique, mais c'est tellement hors champ, tellement hors... Tu sais, c'est pas un pur business encore, comme ça va le devenir plus tard. D'ailleurs, Fusati, la mauvaise, vis-à-vis d'un Aurel San, par exemple. Il me semble l'avoir déjà entendu parler de ça, où en gros, il dit, le loser, c'était moi, j'étais là avant, et toi, t'as repris la formule, et toi, ça a marché.
Alors Elsan, il a clairement écouté Club des Losers, je pense.
Ouais. Bon. Ouais. Bah après, ça a marché. Enfin, succès d'estime.
À l'époque, ça a assez bien marché. Hein. Ouais. De mémoire, 15 000. Mmh. Tu vois. Bon, on était contents. C'était chouette. Et puis, oui, ça peut être irritant, mais le côté ovni était très attirant. Mmh. Moi, je trouvais ça génial d'arriver avec cette espèce d'album et complètement dingue, avec des samples énormes, parce qu'il y avait beaucoup de samples, qui, je sais pas, c'était l'art
de... C'est lui-même qui produit, d'ailleurs.
Avec son DJ Orgasmic. Ouais.
Exact. Parce qu'il y avait Detect aussi, mais c'est sur les précédents.
Ah non, Detect, t'as raison. Ouais, c'est... Detect, pardon.
Sur un EP, je sais pas si c'est avec vous, featuring avec MF Doom.
Ah, c'est...
Bah, c'est pas surprenant.
Ouais, je me souviens très bien. Ouais.
Le harpanet du hip-hop, un peu. MF Doom.
Et franchement, mais en 2004, tu vois, un Français qui fuit avec MF Doom, un peu de respect, tu vois.
Ouais, non, mais 100%.
Il avait dit OK direct. Hein. Bon, ça coûtait un peu d'argent, mais comme d'habitude avec les Américains, mais ouais, il avait dit OK tout de suite.
C'était vraiment lui, du coup, parce qu'en fait, on sait pas, le mec,
il avait même pas ses propres concerts. Il avait le masque.
Je l'ai rencontré après, et ouais, il m'a confirmé, c'était bien lui.
Est-ce que toi, il y a un morceau que t'aimes bien sur... Moi, j'aime bien le Manège des Vanités, ce qui résume un peu, je crois, un peu cet album. Il y a Sous le signe du V, mais qui est un peu plus cliché, entre guillemets, sur le côté Versaillais et tout, tu vois. Qui est fait avec JB Drinkel, d'ailleurs, de R, c'est rigolo. Toi, t'as un morceau,
je me souviens plus du nom du morceau.
Ouais, bah, tu sais quoi, je commence à mettre un extrait du Manège des Vanités, on pourra toujours écouter un deuxième extrait, qui te plaît derrière.
C'était un test de mathématiques qui aurait zéro pour ne pas avoir su calculer l'identité remarquable que je suis. Mon envie de me soustraire à ce monde demeure proportionnelle à ma faculté de multiplier les échecs. Et je ne m'excuse pas si je te calcule pas. Moi, si je suis nul en maths, c'est que je n'ai jamais compté pour personne. Arpentant les rues, je croisais la petite fille aux allumettes, mais la trouvant trop froide me dit que ce n'était pas la peine. N'y a-t-il que dans le crématorium qu'on trouve de la chaleur humaine? Tu es un train, puisque depuis tout petit posé sur des rails, d'une école privée au scout, du scout à l'église, de l'église à la prépa, de la prépa, je sais d'HEC à ce poste de PDG. Attention, prochain arrêt en gare de la normativité. Et puis quoi, tu es un mec sympa qui passe ses vacances à la boule parce que c'est sympa, avec des gens sympas dans une maison sympa, en short et en polo, les pieds nus dans tes bateaux, un pull noué autour du cou, cela te donne un style sympa. Que dirais-tu si demain je venais défoncer ta famille, tous les tiens dans ma main, ton père de golf préféré, ma chemise rose ensanglantée, de ta fille, de ta femme, de ton chien, de ton père, de ta maîtresse, de ta mère, elle sèche ses larmes, je ne vais pas vraiment le faire. Tu te demandes pourquoi, mais cela ne serait pas très sympa. Si nous allons à la piscine, c'est
hyper drôle en vrai, moi je trouve ça trop bien.
Ouais, je pense que nous à l'époque on était un peu trop cons pour comprendre le...
Non mais...
Parle de nous, c'est genre nous les mecs du rap.
Ouais, je peux comprendre parce que... Ce qui est terrible, c'est que ces mecs du rap alternatif, y compris Fusati, ont toujours dit « Mais nous, on kiffe le rap. » Ils avaient une vraie culture rap. Et ils voulaient faire du rap.
Un grand connaisseur de rap. Hein,
bien sûr, bah, j'en doute pas, tu vois. Ne serait-ce que là, avec la rythmique qu'il a choisie et tout, machin, qui référence d'autres morceaux sortis avant, tu le sais, tu vois. C'est juste qu'effectivement, c'était trop... c'est marrant, c'était peut-être trop malin, tu sais. Intelligent en fait pour un public qui était
beaucoup trop tôt surtout.
Ouais,
c'est ça. Ils sont maudits les pauvres. Ils ont fait un doc là-dessus. Fusati a été un peu relou sur le doc d'ailleurs. il voulait pas que ça se fasse, etc. Mais où en gros il y a un peu ce truc de bah, pas d'amertume, mais de se dire bah, on faisait un truc quand même intéressant et ça a pas trouvé le public comme ça aurait dû. Et derrière, mine de rien.
Ouais, c'est le timing.
Bon. On reverra du rap un jour sur Record Makers ou...
Ah, j'adorerais.
C'est vrai?
J'adore le rap. Ouais. Ça dépend des rencontres, des... Non, mais c'est vrai, ça dépend de...
Ouais, c'est vrai. Mais surtout que... Enfin, autant je pense que les gens qui sont dans cette esthétique, dans l'esthétique que vous produisez depuis 25 ans, naturellement proposent des projets à Record Makers, je pense que des gens qui sont dans le hip-hop, ils ont même pas ça, ça leur traverse même pas l'esprit. C'est à clair. Part les gens... qui peut-être se réclamerait d'un héritage du Club des Losers, qui se dirait, bon, bah, logique, tu vois. Mais dans le hip-hop, je pense que ça... Les gens se disent pas, tiens, allons démarcher.
Mais là, on va sortir des morceaux de rap sur un album à sortir l'an prochain. Parce qu'on travaille avec un artiste qui s'appelle Blasé.
Ouais.
Et Blasé, il vient de la prod hip-hop, à l'origine. Mm-hmm. Il a produit pour Lala Ace, mm-hmm. pour il produit tout, beaucoup de sons pour Jules, vous voyez le JWLS.
Oui, oui, absolument. Ouais.
Bon, il a fait beaucoup de prod dans le rap blasé, et donc forcément, il a invité. Il y a un morceau que j'adore dans l'album qui est featuring Jules et Valé. Je ne sais pas si vous voyez Valé, un rappeur américain.
Ah, Valé.
V-A-L-E.
Alors non. Pas lui. J'aurais aimé Valé aussi.
T'as trouvé le morceau que t'aimes bien, toi? Ou ça, on peut s'arrêter aussi sur.
Baisse les gens.
Ah, bah baisse les gens,
c'est le classique du début. Quoi.
Bah oui, évidemment, avec Parawan d'ailleurs dessus aussi.
Qu'on a reçu dans cette émission, absolument. Même si j'étais pas là.
Tout à fait.
C'est lui.
Ok.
Que je ne suis rien qu'une simple feuille de papier toilette. Vois torcher la news du monde jusqu'à l'instant recouvert de trop de merde. Je ne finisse par craquer. Comme chaque être humain, mon existence ne trouve sa réelle justification que dans cette mission de constant nettoyage. J'essuie, non, j'éponge la merde de plein de gens pendant qu'eux-mêmes font pareil avec la mienne et finissent par craquer. À 24 ans, j'estime que je suis trop jeune pour dormir dans les trains. C'est bien, moi j'estime qu'on ne peut pas prendre les gens pour des cons en mendiant les pieds confortablement insérés dans des baskets onéreuses. Contre mon corps se colle une matière spongieuse. Cet homme a le ventre flasque, il sue, des poils lui sortent du nez. J'aimerais vous parler de vos odeurs, gardez-les. Le métro n'est qu'un ramassis de fange. Ce n'est pas les bons porcs qui brûlent si tu mets le feu à la grange. Leur esprit tous convertis, ils prient sans même le savoir. Le dieu consommation assis avec une bière dans le canapé de leur salon. Des millions d'écrans fraîches remplissent leur boîte crânienne d'images. Pourquoi devrais-je regarder la télé? Est-ce qu'elle me regarde, elle? La vie n'est pas belle. Sous son fontain, il y a des...
Ah là là. Est-ce qu'elle me regarde, elle? Bon, je crois qu'on a fait un bon point aussi sur votre identité. Je voulais faire une troisième partie, mais on a déjà discuté pendant longtemps. Peut-être juste quelques mots, Marc. Début 2000, vous lancez Record Makers. Vous êtes toujours là, on pourrait citer Tristesse Contemporaine, Blasé, Nit, des artistes que vous accompagnez aujourd'hui. Il y a eu aussi Colaboy avant, évidemment, Hypnolove, Dita Vantis, j'évoquais aussi Damien, Acid Wash, Turzy, etc., Visible Boy, pour être un peu juste, les citer quand même au moins dans cette émission, parce qu'on a parlé, c'est vrai, des stars, entre guillemets, des tubes, sympa, mais il y en a plein d'autres, bah ouais. On invite de façon à aller sur votre site internet pour voir les artistes avec qui vous bossez, puis aller écouter ça. Qu'est-ce que tu tires comme enseignement, je sais que c'est un peu vaste, hein, mais de ces plus de 20 ans, de l'évolution du business, de la pertinence d'un label comme Record Makers encore aujourd'hui, tu vois. Qu'est-ce que ça t'évoque, ces questions? Tu te les poses parfois, d'ailleurs?
Bien sûr, je suis bien forcé pour continuer à faire tourner la baraque, on va dire. Ce que je pourrais dire, c'est que le jeu a complètement changé. Enfin, ça n'a rien à voir. Quand on a monté le label, c'était les ventes physiques qui tiraient tout vers l'avant. Maintenant, comme vous le savez, c'est le streaming. Même si les ventes physiques de vinyle, pour nous, sont toujours assez... c'est pas du tout le principal revenu du label, mais c'est quand même conséquent. Enfin, on represse beaucoup. C'est une activité, d'ailleurs, qu'on adore, de presser des disques, de... les distribuer, faire des belles jolies pochettes pour l'objet. On a arrêté de faire du CD, mais le vinyle, on continue. Donc voilà, le game a complètement changé, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était. Et il y a, moi, quelque chose qui me frustre énormément aujourd'hui, c'est le côté, la péremption extrêmement rapide de la musique. Ouais, ça, je trouve ça hyper déprimant. Mmh. Je pense qu'il y aura probablement une époque, un peu comme il y a eu Mega Upload, toute l'ère des blogs méga upload au début du 21e siècle, qui nous a fait redécouvrir des tas de musiques oubliées. Mais je pense qu'il y aura certainement ça dans le futur, enfin en tout cas je l'espère profondément, parce qu'il y a beaucoup d'artistes en fait qui sont noyés dans l'océan Spotify, et que personne n'écoute en fait, qui n'ont aucune visibilité, et parfois tu tombes sur des trucs fabuleux, quoi. Enfin, donc ça existe encore aujourd'hui. Voilà, tout ça pour dire que le jeu a complètement changé, qu'il faut s'adapter en temps réel. La musique garde sa position de laboratoire de la vraie vie. C'est-à-dire que toutes les vagues, tous les changements, c'est la musique qui les... C'est la proue, en fait, du bateau, quoi, la musique. Mmh. C'est-à-dire, elle se prend la vague avant tout le monde. La vague Internet, la musique l'a prise avant le cinéma. Pourtant, le cinéma, mmh, clairement, a changé son modèle aussi, mais c'était bien, bien plus tôt, la musique. Mmh. Et ça continue aujourd'hui, donc... voilà, c'est...
Ouais, d'un point de vue artistique.
D'un point de vue artistique.
Ouais. Qu'est-ce que tu constates ?
Tu veux qu'ils disent quoi ? Que tous les artistes contemporains sont des cons ?
Non, je pense pas. En plus, j'espère qu'il est pas dans cet esprit-là, je crois.
Ah, bah voilà. Bah, alors pourquoi ? Qu'est-ce que tu cherches ?
Ma position, on va dire, c'est pas que ça m'oblige, mais ça m'invite quand même à rappeler l'intérêt d'un label. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une sorte de fantasme qui consiste à dire... nique les labels, on n'a plus besoin de personne, on est distribué, on est en direct avec l'éditeur, ouais, plus d'intermédiaires, etc. Moi, j'aimerais quand même qu'on me cite des noms d'artistes qui font tout seul en indépendant et qui en vivent sur le long terme. À mon avis, la liste est très, très petite. Il faut un entourage, il faut des conseils. C'est comme ça qu'on améliore, en fait. Ce que je dis souvent, c'est que les couches de talent additionné au talent de l'artiste, donc celui qui va produire, celui qui va mixer, celui qui va faire l'artwork, celui qui va, je sais pas, imaginer la tournée. Tout ça dans l'intérêt, sous la direction de l'artiste. Cette couche de talent, elles ont beaucoup d'intérêt en fait pour l'artiste, pour que son message soit évoluer, plus lourd, soit plus ample, pour le faire évoluer. Pour c'est très difficile de durer, et je pense que de surprendre le public aussi, d'arriver avec des concepts frais, nouveaux, de pas donner l'impression de se répéter. Et c'est à ça que ça sert aussi un label, c'est une sorte de conseil permanent en temps réel, ajustement, fine-tuning permanent, et puis de temps en temps des choix radicaux de changement de cap dans la carrière, hein, je veux dire. Voilà, moi, c'est forcément ma position qui m'incite à faire ça, mais je plaide pour les labels, en tout cas les structures à taille humaine comme la mienne. Je pense qu'il faudrait qu'il y en ait plus, parce que c'est super important, en fait, pour les artistes d'avoir en tout cas une époque où ils travaillent avec un label, où ils peuvent bénéficier de cette espèce de...
D'émulation, en fait.
Ouais, d'émulation, de bienveillance, pas naïve, hein, évidemment, mais de vraie bienveillance.
Tu comprends quand même le désir des artistes aujourd'hui d'œuvrer pour le plus d'indépendance possible, notamment aussi pour récolter le fruit de leur travail.
Bien sûr, ouais, évidemment.
Et tu penses qu'un équilibre est trouvable dans tout ça ?
Bien sûr. Il y a beaucoup d'artistes maintenant, bon, c'est souvent ceux qui ont déjà un nom, qui en fait sont entourés de ce qu'on appelle de freelance, quoi. C'est-à-dire que quand ils ont une sortie d'album, ils engagent un attaché de presse, un type qui fait les réseaux, qui fait du marketing digital, quelqu'un, une nana qui fait, je sais pas, le tour. Enfin,
ils recréent un label, quoi.
Voilà, ils recréent un label, mais de manière éphémère.
Ouais. Un pop-up label, quoi.
Un pop-up label, mais à l'arrivée, donc, ils gardent leurs droits. C'est malin de faire ça, mais ça sous-entend qu'il faut quand même avoir de la visibilité au début.
Et un peu de trésorerie pour payer ses freelances.
Évidemment, après, tu peux trouver quand t'as vraiment, vraiment. Des gens qui sont intéressés à distribuer ta musique, tu peux trouver les fonds facilement, c'est pas compliqué. Donc voilà, il y a un espèce de fantasme, le producteur, c'est un salaud, il mange la laine sur le dos de l'artiste, etc. Je pense que ce sont des clichés voilà quoi, je fais un plaidoyer pour les labels.
Pour les petits labels,
tient à cœur. Ouais, pour les petits labels. Ouais. Ouais.
Un conseil pour trouver un artiste, pour trouver le label qui lui correspond. Comment on fait le tri entre... tu vois, parce que bon, c'est normal d'avoir peur aussi de se faire avoir, de machin. C'est dur de naviguer dans cet univers.
Bien sûr, il est très mystérieux en plus. Ouais. Bon, pour moi, il ne l'est pas parce que j'y travaille depuis plus de 20 ans, mais je suis conscient du mystère qu'il peut générer à l'extérieur. Je dirais la technique toute bête, c'est de comparer en fait sa musique avec une musique qui pourrait être un peu dans le même style ou avec je sais pas, un code commun ou... une esthétique, que sais-je, et d'essayer d'aller voir les mêmes tuyaux. Ouais. Ça, c'est une bonne technique, je pense.
Et dernière question, est-ce que tu penses, on a inauguré le podcast en disant que le rôle du label, il est à mi-chemin entre l'artistique et l'économique stratégique. C'est une tension, forcément, les deux. Ça se répond sans cesse, parfois ça tend vers l'un, parfois vers l'autre, il y a des réalités, etc. Est-ce qu'en 25 ans, cette tension a évolué ? Est-ce qu'elle est plus prégnante aujourd'hui ou pas forcément ? Est-ce qu'on arrive à résister à l'idée que la musique est un objet commercial, commerciable, je sais pas comment le dire, comme un autre.
Commercialisable.
Commercialisable, comme un autre.
Ben non, c'est quand même un business, on va pas se voiler la face. C'est forcément, avec le temps, ça, c'est présent dans ma tête. Je sais ce que je fais, on va dire, plus qu'avant. Comme je le disais tout à l'heure, au début, on était très à l'instinct. Là, je le suis toujours. C'est ça que j'aime dans ma position, c'est-à-dire avoir un label complètement libre, aucun contrat, aucun actionnaire. En fait, on fait ce qu'on veut. Et ça, j'aime ça. Et l'attention, ouais, et c'est mon travail clairement de veiller à ce que ça coule pas du jour au lendemain. Quoi. Ça, c'est sûr que je dois faire attention à ça. Moi, je viens plutôt de l'artistique que de l'économique. Donc ça peut peut-être me jouer des tours parfois. Mais j'ai appris à m'entourer maintenant pour m'aider sur mes points faibles, on va dire.
Tu sens une pression économique plus importante qu'auparavant ou pas forcément?
Ah oui. Bah, depuis le début du siècle, hein, depuis début 2000. Depuis qu'il y a eu... Moi, je suis arrivé dans la musique, c'était des ventes de CD, des ventes de vinyle à gogo. Les CD se vendaient 15 euros. Ça coûte 1 euro à fabriquer. Vous voyez la marge. Bon, après, il fallait payer l'origine et tout ça, bien sûr, mais... voilà, on a complètement changé. Maintenant, en gros, pour un artiste aujourd'hui, la manière de vraiment très bien gagner sa vie, pour l'artiste moyen, on va dire, c'est de tourner.
C'est de faire du live, ouais, bien sûr.
C'est de tourner, faire du concert. Là, tu peux vraiment y arriver et gagner beaucoup, beaucoup d'argent, mais c'est un boulot, c'est fatigant. Hein, c'est...
Ça demande des ressources, ouais.
Ça demande beaucoup de ressources, ouais.
C'est usant, même physiquement.
Ouais, carrément, ouais, bien sûr.
Ah, c'est... Même mentalement, hein.
Bien sûr.
Mentalement, c'est très usant aussi. Donc, mais c'est là qu'aujourd'hui les artistes peuvent vraiment bien gagner leur vie. Donc ça a complètement changé.
On peut plus avoir d'artistes de studio quoi, qui sortent un album tous les 3 ans et puis qui en vivent. Et...
Ça existe
forcément, quoi. Mais ouais. C'est plus rare, ouais. C'est plus rare. Il y a moins aussi d'artistes mainstream. Voilà, bon, il y en a encore, hein, mais moins que, je sais pas, il y a 20 ou 30 ans, de stars idolâtrées qui, quoi qu'ils fassent, sont écoutées partout. C'est plus disparate, c'est plus éclaté, quoi.
Absolument. Bon, c'était hyper intéressant.
Ouais. On avait les mêmes constats, en fait. Hein.
Oui, bah oui. Bah, de toute façon, l'idée qu'Internet a tout segmenté, que plein de niches existent, avec sa valeur aussi, c'est qu'en fait, il y a plein de publics variés, qu'on n'a jamais été aussi en capacité d'atteindre ces publics niches et spécificités, et éventuellement même d'en tirer une économie. Ce qui est génial, et à la fois aussi parfois difficile. Et bon, c'est...
Bien sûr. Ouais, non, c'est... Il a bien changé le game.
C'était super, Marc. Merci beaucoup.
Merci de l'invitation. C'est un plaisir.
Tu sais qu'on a une tradition dans ce podcast. C'est de terminer avec une recommandation. Une recommandation musicale. T'as le droit de mettre du Record Makers entre nous. Mais si tu veux autre chose aussi, c'est bien. C'est à toi de voir. Daz, t'as un morceau que t'as envie de faire découvrir à nos auditeurs.
Bien sûr.
Pendant que Marc cherche.
Malheureusement, il n'est pas sur Spotify.
Ah, bon, on va trouver ailleurs.
C'est sur YouTube.
Ok.
Un morceau d'un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Boldy James, qui appartient à l'équipe Griselda avec West Side Gun, Benny the Butcher, Conway the Machine.
Ok.
Donc les mecs de Buffalo, New York.
Ok.
Qui a fait un EP en collaboration avec un producteur qui s'appelle Real Badman. Alors, okay. C'est cocasse parce que Real Badman, en fait, c'est l'alias de Adam Weissman qui était au design chez Stussy, Union et Undefeated. Okay, donc
un mec de la SAP.
Un mec de la SAP streetwear luxe là.
Okay.
Et donc ils ont fait un album qui s'appelle Adou et qui est intégralement qui utilise en fait que des samples de Shadé Adou, l'artiste, la chanteuse du groupe Shadé, parce que Shadé est un groupe et Shadé Adou est la chanteuse. Et le morceau s'appelle L-Block to the Sunny Side.
Et ben on s'écoute ça.
Et du coup, c'est pas disponible sur les plateformes, donc démerdez-vous. Where we at? Bojack. Having more mayo than the rest of the pushers. Chopped it up with the plug, my niggas really plug. Stepped on that top and did the jitterbug. Still get it for the love. RX and O, but ain't no kiss and hugs. My niggas really thug. Pop out your bushes with that sticker book. We really rich from drugs. Pop out the cut, I might fuck up the club. They stitching on the sub. Pull that chop out, I might cut up a rug. We get the shit in blood. Pull mine out, I'll got this shit out the mud. Got niggas in the thumb. Finna cop out the no less than a dub. 240 months. New Givenchy's, I only won once. Every band on Mac down, one up. We the reason why they brought it up.
Ends on back to season last. Burnt the turnpike and tore it up. Went down half a ticket master. Came home back a quarter up. I don't know too many niggas on the east side that be caking more than us. Four bricks on consignment off my face card, that's a royal flush. Bully boys, we the mad I am. Gang time, you know it's only us. If you really big creature gang, 237, throw your six joyers up. You the mad I ain't. Gang time, you know it's only us. If you really big creature gang, 227, throw your six swings up.
Très bonne vibe.
Très bien, très bien.
Très dascore.
Très dascore, mais ouais. Pas drumless.
Pas drumless, mais
ce qui est bien
un
aussi.
Peu éthéré le son.
Ouais,
plutôt,
ok, je comprends, je comprends. Marc, est-ce que tu as ton morceau? Est-ce que j'enchaîne? Qu'est-ce que...
Ouais. Je voudrais jouer un morceau de Colaboy qui s'appelle All Power to the People.
Ah, bah tu sais quoi, je l'avais mis... En plus, dans les morceaux que je voulais qu'on s'écoute. Et qui, en plus, Colaboy, qui est malheureusement décédé depuis.
R.E.P. Colaboy.
Collaboration. All Power to the People, Colaboy.
In the name of self-defense, I just want to tell you. Colaboy says.
Gros banger, c'est trop bien. Et bah je vais terminer.
Oui, t'as quoi toi?
Et bah écoute, on va s'écouter du Maribou State, parce que Maribou State, groupe britannique que j'avais découvert il y a déjà de nombreuses années avec leur album Kingdoms in Colors, hyper bien. Et ils reviennent là. Alors en fait, le morceau j'ai découvert récemment, mais en fait il a déjà un an, mais il apparaîtra sur l'album apparaître là dans très peu de temps. Super groupe. Ça pourrait être des descendants un peu du trip-hop d'une certaine manière, c'est à la fois avec des sons acoustiques et puis des sons un peu plus beat hip-hop, avec des voix aussi hyper cool. Bref, j'aime beaucoup ce groupe, c'est pas non plus extraordinaire mais toujours très efficace, toujours ça, donc voilà, j'aime bien ça. Et le morceau s'appelle Black Hawk, Maribou State.
Allez,
on s'écoute ça. Ça, non, quand même, non?
Ouais, c'est très chouette.
Ouais.
Vous pourriez monter un label tous les deux, hein. Vous êtes bien complémentaires. Mais dans le même vibe.
Il y a une DA.
Ouais, il y a un truc.
Bon, c'était hyper bien. Merci à nouveau Marc, Marc-Cessier Ducrot, Record Makers. Merci évidemment à Flavien. Il était tout seul en la technique en plus aujourd'hui.
Il a assuré de ouf. Abandonné de tout et de tous.
Exactement.
Mais il s'en sort très bien parce que c'est le meilleur de l'équipe, bien sûr.
T'as toi d'assumer la responsabilité avec les autres.
J'en profite qu'ils ne sont pas là.
Oui, merci à François aussi évidemment pour le montage.
François, bien sûr.
Merci à Thoman. Est-ce que tu as déjà acheté chez Thoman ou avec des artistes que tu leur as déjà fait acheter des trucs chez Thoman?
Sûrement.
J'espère bien.
Moi je pense également.
Moi je pense, c'est certain, puisque Thoman est le meilleur magasin de musique du monde. Voilà.
Bien sûr, voilà, fallait le placer.
Exactement.
Merci la famille.
On se retrouve dans 15 jours.
Bien sûr.
Nouveau sujet, nouvel invité. Ça sera bien comme à chaque fois.
Ciao tout le monde.
Descendez-nous.